Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 163e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 26 septembre et nous allons vous présenter les sorties comics VO de la semaine. Pas mal de lourd cette semaine, encore une fois, la dernière semaine du Villain Month chez DC. Du côté de l'indé, le retour de Jupiter's Legacy, la suite de The Wake ou encore des nouvelles séries comme Sex Criminal ou Rat Queens. Et enfin, chez Marvel, la suite d'Infinity, le début d'Infinity The Heist, ainsi que du crossover Battle of the Atom. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler de toutes ces sorties, et il y en a un gros paquet, Sam.
Bonsoir.
Tu remarqueras comment j'ai bien placé Sam, gros paquet, tu vois.
Mais c'est normal, c'est la première chose qui te vient à l'esprit quand tu parles de moi.
Oui, voilà, je te fais des jolis compliments en direct. Nous avons aussi Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Et nous avons Mister René Benny.
Bonsoir les gens et les gentes.
Cette fois-ci, je t'ai pas coupé, tu vois. Allez, on va commencer par le décès. Enfin, la fin de ce putain de Villain Month.
Lequel était très, très, très vilain.
Le Shit Month, le Perdez votre argent Month. Le Shit Month, c'est en référence à un auditeur qui nous avait laissé ce commentaire, et je trouve que ça correspond très bien à ce qu'on a lu.
Bah, ouais. C'était surtout le Dope Month.
L'année prochaine, il devrait faire le Saving Month. Aucun comics qui sort, tu vois, ce serait pas mal. Ça nous rembourserait peut-être un peu de ce qu'on a subi.
Ça va être le héros monde, ça, moi, je vous le dis.
Ah, putain. Alors, on va commencer par le Batman Superman 3.1 Doomsday. C'est scénarisé par Greg Pak avec des dessins de Brett Booth et un ancrage de Norm Rapmund, bien évidemment. Je sais même pas vraiment pourquoi il sort sous la bannière de Batman Superman, ce truc-là.
Moi non plus. Fallait juste le caser.
Uniquement parce que c'est Greg Pak. Hein.
À moins que ce soit le Doomsday de Terre 2. Ce qui pourrait peut-être expliquer des trucs.
Parce oui, que, des incohérences dans le truc.
C'est totalement incohérent. On va suivre Doomsday sur Krypton avec la petite Kara Zor-El à qui on raconte l'histoire de Doomsday. Son papa, il est tellement gentil. Il lui raconte l'histoire qui fait peur, mais après, il lui dit que tout le monde, les gentils vont s'en sortir et que tout le monde va être content. Et après, il lui raconte l'histoire de Superman.
Mmh. Et j'ai rien qui compris. Est sous forme de conte.
Mais je veux dire. Et puis après, elle discute avec Zod. Voilà. Mm-hmm. Mais c'est pas mauvais, hein. Franchement, c'est pas mauvais la lecture. C'est juste que qu'est-ce que ça apporte?
Oui. Surtout que personnellement, j'ai lu sur Wikipédia les origines qu'avait initié en fait Dan Jurgens il y a quelques années. Il avait pondu une mini-série sur le personnage.
Oui, oh, oui,
c'était vachement riche comme background,
oui,
en fait.
C'est hyper intéressant, oui.
Et là, il te réduit ça à... En fait, il fait le lien avec son épisode spécial Zod. Donc déjà, on peut... Merci, Greg Pak, d'être en cohérence avec ta propre continuité. C'est déjà bien. C'est sympa pour nous. Mais sinon, voilà, c'est Doomsday qui est réduit à l'objet de manipulé par Zod. Voilà. Merci, c'était super. Mais son origine réelle qu'il a créée, ce qu'il fait là...
Le problème, c'est que c'est à la fois un épisode sur Supergirl, à la fois un épisode sur Zod, et un petit peu un épisode sur Doomsday, en fait. Voilà, Doomsday n'est qu'un prétexte. L'appeler Doomsday, c'est vraiment juste pour faire vendre. Alors, comme je dis, ça se lit bien. C'est plutôt joli, hein, du Brett Booth, donc c'est vraiment pas désagréable à l'œil.
Du bon Brett Booth, hein, ouais. C'est vraiment très beau. Scénaristiquement, ouais, c'est bizarre quand même. Enfin, la lecture est bizarre.
Mais moi, j'en viens à la conclusion que ça doit se passer sur Terre 2, quoi. Puisque l'arc de Greg Pak se passe sur Terre 2 actuellement. Même si pourtant Batman Superman est censé se passer sur Terre 1 comme série, mais
ouais, c'est étonnant parce que c'est quand même le design des costumes qu'on a vu pour la Terre classique, pour que ce soit pour les parents de Superman ou pour les autres personnages. Mais c'est surtout tout ce qui concerne le combat entre Doomsday et Superman qui du coup est tellement étrange et on comprend pas du tout comment ça se place dans la continuité puisque
on sait que dans les New 52,
on sait que dans les New 52 Superman est mort a priori pendant les 5 ans où il a été
Oui, mais
bah,
ça s'était
Superman.
placé par Grant Morrison, ça a été respecté.
Mais on
Mais à
sait
un
pas
moment,
comment il
il
était
parle
mort
du...
et ouais.
Voilà, et non, mais on peut se dire que c'est grosso modo pareil, sauf que dans le contexte de New 52. Mais le problème, c'est que là, dans cet épisode, il te place aussi le Reigns of Superman, donc la suite, avec
Ouais,
tous les personnages, Superboy, Supergirl, tout le monde. Alors que dans le New 52, Supergirl et Superboy n'arrivent que des années après la mort de Superman et son retour. Donc, voilà, dans la continuité New 52, ça ne rentre pas.
mais comme d'habitude avec DC, ça n'a aucun sens.
Voilà, oui.
Alors après, comme c'est ouais, c'est un titre Batman Superman, c'est écrit par Greg Pak, peut-être qu'on aura des clés là-dessus
Ah,
dans
on l'a dit,
l'arc
hein.
justement qui sera avec Brett Booth au dessin, puisqu'on
Ouais,
sait qu'il va arriver sur le titre.
je pense que
Mais
t'es vraiment trop optimiste là, Bruno.
non, à
ouais,
mon
mais
avis.
j'ose espérer parce que sinon le numéro, je trouve qu'il a, il a aucun sens en fait. Et
à mon avis, il doit avoir des
s'il y a
plans
du
pour
background
Doomsday,
derrière,
hein.
ça peut être cool. Ouais.
C'est pas anodin, à mon avis.
Bah, de toute
Il
façon,
doit avoir des
Doomsday
plans
avait
sur le
été.
personnage.
Doomsday avait été teasé pour être amené là ces derniers mois, donc.
Ouais, je crois qu'on le voit aussi sur la couverture de Superman Wonder Woman qui va sortir bientôt. Donc,
Ouais.
donc ils vont peut-être développer ça, mais c'est vrai que là, le truc est très confus. C'est beau, comme vous dites, c'est bien écrit, mais c'est confus et on voit pas où ça va aller. Et du coup, ça laisse un goût amer.
Comme tout le Villain Mons.
Pas tout, pas tout, pas tout.
Pas
Bon,
tout.
attends, excuse-moi. Franchement, comparé au titre que vous lisez d'habitude chez DC dans un mois normal,
Ah oui, là, non, là, y a beaucoup
non,
de déchets,
tout à fait.
hein.
Non, mais c'est juste par rapport à mon autre lecture de la semaine qui, elle, est très bonne. Et pour une fois,
Ben moi aussi.
j'étais
Ouais,
content.
d'accord, mais enfin, du
Pour une
coup, tu
fois.
vois, tu n'as lu que deux DC et je suis pas sûr que ce soit parce que
Et,
t'es
ah
manqué de
oui.
temps.
Non, c'est que j'ai foncé sur les Marvel et sur les indés
Ben
et les
oui,
DC, ça m'a un peu
évidemment.
saoulé.
Ben, ça, voilà, tu vois, tu donnes la réponse tout de suite. C'est que DC, ça t'a
Après,
saoulé pour ce mois-ci.
parmi tout, il y a deux, trois bonnes surprises. Mais c'est vrai que
Voilà, mais à partir du
on
moment où
en
c'est
a
pas
marre hein, du Villain
assuré en fait
Mons.
par l'équipe créative habituelle, tu fais un peu chier, quoi.
C'est clair.
D'habitude, sur un mois, on arrive à quand même chroniquer une vingtaine d'épisodes en moyenne de DC, peut-être même un peu plus.
Voilà.
Et
Mais en général, il y a pas mal de bons trucs. Je dirais la
ouais,
moitié.
y a au moins plus de la moitié en check-it, on va dire un quart en bail et le reste en check-it moins, voire passe. Et encore, ça devient très rare
Voilà.
maintenant, puisqu'en
Alors que
général, on
là.
n'en parle pas. Et là, franchement, le nombre de passes qu'on a pu faire ce mois-ci sur DC, enfin, c'est incroyable.
Ah oui.
Donc, bah, on va donner les notes pour ce Batman Superman Doomsday. J'ai envie de dire, check-it moins. Ça m'emmerde parce que le comic est sympa, mais c'est juste que dans la
Ouais, c'est beau.
continuité, ça n'a aucun intérêt. Donc,
Ça n'a aucun sens,
check-it
surtout.
moins. Check-it moins, pour moi.
Idem,
Ouais.
check it
Pareil.
sympa, mais sans plus.
Pareil, check-it moins. Et j'ose espérer qu'on aura des réponses par la suite.
On va continuer avec le Wonder Woman 23.2 Firstborn, Sam.
Oui, un épisode bien plus sympa que le précédent. Donc Brian Azzarello qui revient au scénario.
De quel précédent tu parles? Le Batman Superman ou le
Oui.
précédent Wonder Woman?
Non, non, le précédent Batman Superman.
D'accord.
Là, on a un bon épisode en fait. C'est ce qui change. Et
D'accord.
dessiné par Ako, donc un nom qui nous faisait,
Ah, le
qu'on parlait
fameux Ako.
beaucoup. Voilà, qui dessine ça dans un style. En fait, il reconduit le style qui est en vigueur sur la série depuis son relaunch. Donc très très Cliff Junk et dans cette veine-là. Donc en fait, c'est les origines de Firstborn depuis sa naissance, son abandon sur Terre par ses parents et comment il va petit à petit se rebeller contre les dieux et mener une gigantesque armée sur l'Olympe. Inutile de dire que ceux qui ont suivi la série comprennent que ça s'est mal fini pour lui, puisque quand on l'a retrouvé, il était écorché vif et il ressortait de plusieurs millénaires d'incarcération au centre de la Terre. Donc il en avait légèrement chié et l'épisode sous-entend qu'il va continuer à en chier. Donc c'est un très bon épisode pour moi. Là on gagne vraiment un nouvel éclairage sur le personnage, enfin plus d'éclairage que ce qu'on avait. Donc pour un personnage qui est très intéressant à la base, parce qu'on sait que Wonder Woman niveau ennemi ça pêche un peu quand même, parce qu'une fois que t'es sorti de Cheetah, oui merci. Voilà.
Bah, on avait Giganta avant, mais apparemment, c'est plus vraiment un ennemi Wonder Woman, quoi.
Voilà, mais c'est pas un jeune ennemi génial, quoi. Voilà. Batman a une galerie.
Ouais, enfin, Giganta, bien utilisé, pouvait être un très bon ennemi, mais c'est juste que bah, maintenant, ils ont décidé de la mettre ailleurs que face à Wonder Woman, donc.
Alors que là, avec Firstborn, quand même, t'as quand même un personnage qui a du charisme, qui a de l'impact, qui est lié par le sang à Wonder Woman. Donc, ça fait plus de. Moi, je pense que le mot impact définit bien le personnage.
Sans vouloir être mauvaise langue, j'attends à ce que Brian Azzarello annonce qu'il quitte la série parce qu'on lui a obligé dans un crossover. On a bien vu qu'ils n'ont pas tenu la promesse qu'ils avaient faite à J.H. Williams 3, pourquoi il attiendra Brian Azzarello. Quoi. Surtout que Wonder Woman va avoir vachement d'exposition dans les prochains mois.
On verra, c'est surtout avec Superman Wonder Woman qui est censé rassembler les deux intrigues, un petit peu la mythologie et le DC classique. On verra ce que ça donne, mais du coup, s'il y a un titre pour ça et qu'Azzarello continue dans son coin à faire sa sauce, bon, ça peut aller, quoi.
Mais moi, c'est tout ce que j'espère. Hein. J'espère qu'il pourra continuer à faire son truc, mais
c'est super, Wonder
franchement, on s'attendait pas du tout à ce départ de J.H. Williams 3 sur le sur Batwoman pour divergence créative, et j'ai bien peur, enfin, que Brian Azzarello suive le même chemin aussi, quoi. Mais bon, espérons qu'il restera le plus longtemps possible.
Ouais. Bah, qu'en fait, qu'il reste jusqu'au bout de son histoire, c'est tout.
Ouais.
Ça fait longtemps que Wonder Woman n'a pas eu aussi bonne presse.
Oui.
Donc pour ce 23.2, Sam ?
Ben un bail.
Un bail ?
L'un des très rares de ce Dope Monde. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait il est décrit par le scénariste habituel. Voilà. Ouais. C'est la raison principale, je pense.
On va passer au numéro suivant, c'est le Justice League numéro 23.4, Bruno, qui se concentre sur la Secret Society.
Oui, tout à fait. Et c'est aussi un bail. Et c'est écrit par Jeff Jones et Sterling Gates. C'est centré sur le personnage du Outsider, donc de Alfred de la Terre 3. Et dans ce numéro, en fait, alors j'ai oublié de donner les dessins. C'est dessiné par Simon Kudransky. Donc c'est très beau, c'est très noir. Ça va bien avec l'ambiance de la Terre 3, puisqu'en fait, on a droit à vraiment tout le background du personnage d'Alfred et de comment est la Terre 3. Donc là, on y voit un peu tout cet univers complètement inversé. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant de le découvrir. C'est très sombre, on y voit justement un Joker qui est un peu comme un héros, un anti-héros, mais de la Terre 3 qui se bat contre Allman. On voit un peu comment Alfred et Allman, justement Thomas Wayne, sont devenus proches. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent, qui sont en rapport avec Forever Evil, surtout vers la fin. Un numéro que moi je trouve franchement indispensable et que j'ai adoré découvrir. Si vous avez aimé Forever Evil et que vous avez envie de comprendre un peu ce qui va se passer par la suite, je pense que c'est vraiment un numéro à lire. Donc pour moi c'est un gros bail et esthétiquement j'ai trouvé ça très beau et vraiment bien écrit. Donc voilà, il y a quand même de bonnes surprises ce mois-ci.
Ouais. Je te fais confiance. J'essaierai d'y jeter un œil. Là c'est vraiment le manque de temps qui m'a empêché de le lire celui-ci aussi. Comme plein d'autres dont on va parler tout à l'heure. On continue avec Mister Andebony qui va nous parler du Batman 23.4 Bane.
On retrouve au scénario Peter J. Tomasi et puis au dessin Graham Nolan, donc avec un trait assez rétro, old school.
Oula oui.
Ouais. En même temps, bon, ça colle bien au personnage de Bane, on a l'impression de lire une histoire des années 90.
Bah même pas parce que j'ai vu des dessins de Graham Nolan des années 90. À l'occasion de la réédition de Nightfall, c'était bien plus moderne ce qu'il faisait à l'époque que maintenant. Hein. C'est peut-être parce qu'il s'ancre lui-même là-dessus. C'est peut-être pour ça.
Ouais, peut-être. Je sais pas. Puis peut-être qu'il en a un peu rien à foutre.
Oui, je pense aussi que c'est ça. Ouais.
Je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Alors, l'épisode démarre plutôt bien. Enfin, moi, ça m'a fait marrer au début. Il se passe un truc assez marrant, en fait. Il est en train de buter des prisonniers sur Santa Prisca, là, l'espèce d'île sur laquelle il est. Et puis il y a une gamine qui arrive, et donc il y a le mec que Ben tient sur ses... Enfin, qui est prêt à tuer, quoi, qui dit « Non, s'il te plaît, ne me tue pas devant ma fille. » Et t'as la fille qui est là et qui dit « Non, non, mais moi je suis venu justement pour regarder.
» C'est vrai, en plus.
Et voilà, donc c'est juste énorme, quoi. Ça m'a fait marrer. Alors je me suis dit « Ah tiens, c'est cool, peut-être qu'on va avoir un numéro assez drôle, au fait. » Enfin, c'est drôle, avec de l'humour noir et tout. Mais au fait, c'est à peu près tout. J'ai bien aimé le démarrage. Et puis après, bon bah en gros c'est Bane qui retourne vers Gotham City.
Voilà pour l'envahir et sauf qu'il s'arrête. L'épisode s'arrête au moment où en fait il va arriver. Donc en fait il se passe
oui,
rien.
C'est ça.
C'est Bane qui motive son équipage. Merci, c'était super sur 20 pages.
Est-ce que c'est raccord avec les événements qui ont été décrits dans Talon?
Alors, je sais
Bane
pas.
Bane avait le rôle central justement. C'est un temps, Sam, tu les as lus toi?
Oui, sauf qu'en fait Talon s'est arrêté au moment où la Secret Society venait le recruter et ça s'arrêtait là. Donc en fait le sort de Bane était laissé dans la spectative. Il disait juste je suis intéressé par l'offre. Voilà, manifestement il a accepté puisqu'il a la pièce, tu sais, de la Secret Society. Voilà. Mais à part ça.
Après Bane sera le héros de la mini-série Forever Evil Arkham, je crois.
Oui, il vaut mieux ne pas la lire.
Donc un numéro qui pourrait quand même être sympathique à lire pour ceux qui ont suivi l'arc précédent sur Talon.
Non.
Non, je pense pas.
Parce qu'il est pas, l'épisode n'est pas exceptionnel, franchement.
Ouais, c'est franchement très dispensable. Moi, je dirais que c'est un pass, hein, encore une fois.
Ça sera un check-it moins à la limite du pass, moi aussi. Non
ah ouais. Faut qu'on continue les bons épisodes.
Voilà, on est revenu dans le flow normal.
Il faut dire, il y a eu deux bails d'un coup pour le Videlmon, j'ai pas compris ce qui s'est
C'était
passé.
C'était attention, là.
Et bien justement, est-ce que le suivant va continuer sur cette lignée? La suite, c'est le Green Lantern 23.4 Sinestro, scénarisé bien sûr par Robert Venditti, par Matt Kint, autant pour moi, avec des dessins de Dale Eaglesham.
Ah, ça doit être beau, ça.
Comment?
Ça doit être beau, ça.
Oui, visuellement, c'est très très bien. Au niveau de l'histoire, je suis très mitigé. D'un côté, le numéro est très bon, très verbeux par contre, il faut faire une bonne minute pour le lire, ça arrête pas de parler tout le temps. C'est simplement Lisa Drake qui, suite à la disparition de Sinestro à la fin de l'arc de Geoff Johns, hein, à la fin de son run même, je dirais, elle erre dans l'espace pour essayer de retrouver le bouquin qui a disparu.
Hein, le livre noir des prophéties.
Exactement. Et elle est la mémoire vivante de Sinestro et de sa vie et son œuvre. Et donc, on va revoir toute la carrière de Sinestro dans cet épisode. Donc, d'un côté, c'est très sympa, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, c'est bien raconté aussi, donc voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, en termes d'intérêt, pour la suite du run, je sais pas s'il aura un grand intérêt, quoi.
Bah, je pense pas, parce que c'est pas écrit par les membres de l'équipe officielle.
Bah oui.
Donc, voilà. On aurait eu Robert Venditti sur cet épisode, je me suis dit, ah, c'est à surveiller. Là, c'est écrit par un auteur qui n'a rien à voir avec la franchise, donc.
Voilà. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas grand chose, quoi.
Il faut dire que Geoff Johns est revenu en long, en large et en travers sur la vie de Sinestro, donc.
Sinestro.
Voilà, il y a plus grand chose à explorer maintenant.
Oui, on n'apprend rien de neuf, on n'a même pas un petit élément. Si on a peut-être un tout petit léger élément à la fin, sur les deux dernières cases. Mais franchement, c'est vraiment se laisser une porte ouverte pour dire qu'on se laisse une porte ouverte, quoi. Donc, l'épisode est sympa, je vais dire que c'est un check-it. Maintenant, c'est absolument pas un indispensable pour comprendre le futur crossover Lights Out. Ou même, je pense, la suite du run. Hein. Voilà, check it. Et on va terminer notre dernier review d'essai de ce Villain Month avec Mr. Nebunny qui va nous parler du Batman The Dark Knight numéro 23.4, le fameux numéro sur la fille du Joker.
Ouais, alors le fameux...
Qui nous avait été bien teasé, en tout cas.
Ouais,
bah, en tout cas, oui. Le personnage avait de quoi intriguer, mais alors, du coup, on retrouve là Innocenti au scénario et George Ginty au dessin. Avec Dexter Vines à l'ancrage, d'ailleurs.
Moi, j'aime beaucoup George Genty, par contre.
Ouais, bah...
J'aimais énormément ce qu'il avait fait sur Manhunter.
Là, je trouve ça assez classique, au fait. Un petit peu comme le numéro sur Bane. Enfin, même moins bien, au fait, d'ailleurs.
Puis, il était vraiment pas mauvais aussi sur Buffy, hein.
Oui, ça va. Bah, le problème, c'est que là, je pense qu'il a dû dessiner l'épisode en même temps que la fin de Buffy. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps, hein.
En tout cas, voilà. Donc, c'est du Innocenti... Bah c'est du Innocenti, quoi. Alors bon, c'est très verbeux, très rétro, et puis avec un personnage féminin toujours très torturé. Enfin très torturé. Ça se veut très torturé, mais au fait, bon, c'est un petit peu du déjà vu tout ça. Les origin story de cette fille du Joker. Alors pour le moment, je dirais c'est plutôt fille spirituelle hein, du Joker plus qu'autre chose. Elle retrouve le masque à un moment du Joker, le fameux masque de peau. Écoute, franchement, c'est pas un personnage qui m'intéresse là. La manière dont il est vendu dans cet épisode, ça donne pas spécialement envie d'aller voir la suite.
Alors apparemment, c'est surtout pour Catwoman quoi en fait que c'est.
Oui,
intéressant.
J'allais le dire, ouais, c'est ça. Ouais. Elle va apparaître ensuite dans les pages de Catwoman.
Catwoman qui est écrit. Oui, voilà, c'est écrit par Innocenti Catwoman.
Qui gère son histoire en introduisant ce personnage, en se servant du Villain Month pour le faire. Ouais. Bah, franchement, pas convaincu, et j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme le nouveau Lobo, quoi. C'est vraiment des personnages qu'on a juste pas envie de suivre, parce qu'on s'en fout. Donc,
On avait eu les années 90, On a maintenant les années 2010 chez DC.
Ouais. Non, là, franchement, il n'y a pas grand chose à sauver de cet épisode. Et donc pour moi, ce sera encore une fois un pass, malheureusement.
Bien. Bah, je pense qu'on peut peut-être terminer déjà par un mot sur le fameux retour de la Channel 52. Il était temps. Avec oui. De l'inédit.
C'est... Ah, j'ai pas lu, tiens, pour une fois.
Mais j'ai pas lu.
Bon, c'est le retour du Calendarman qui explique où il était passé. C'était pas inintéressant pour une fois, donc voilà, j'ai l'habitude de gueuler dessus, donc quand c'est pas inintéressant, je vais aussi le dire, quand même. Je pense qu'on peut faire aussi un petit bilan très rapide de ce Villain Mons.
De l'adobe.
Voilà.
C'est le mois de la maturité.
Je dirais pas de l'adobe, parce que je n'en ai pas lu suffisamment, hein, parce que voilà, j'ai pas eu trop d'intérêt à en lire certains. Par contre, c'est un gros succès de vente. Et
c'est bien le
vrai atout de The Villain Mons, c'était justement ces fameuses couvertures 3D qui, mine de rien, sont très belles. Moi, j'avoue, j'ai craqué sur énormément, presque sur toutes. Et c'est vrai qu'elles sont très belles. Mais après, par contre, le comics en lui-même.
De toute façon, Bruno, maintenant, c'est devenu un connard de capitaliste.
Non, mais
je pense qu'au chiffre de vente.
C'est vrai que les couvertures, ça jouait énormément en comic shop et technologiquement c'était assez impressionnant et elles sont vraiment très belles. Après l'intérieur, il y avait du très très mauvais, il y avait quelques bonnes choses et il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore eu le temps de lire, donc je peux pas vraiment dire ce que j'en pense.
C'est bien le problème, c'est que passer la couverture, généralement, ça reste du caca.
Merci de bien résumer ma pensée.
Bah oui, non, mais voilà, enfin, je veux dire, on s'est quand même vraiment foutu de notre gueule sur ce mois-ci en augmentant tous les comics, en les foutant super cher parce qu'il y a cette putain de cover 3D. Alors certes, vous n'étiez pas obligé de la prendre.
C'est ça, parce qu'il y a quand même eu toutes les versions qui étaient juste à 3 euros, qui étaient disponibles en même temps que les autres.
Il y a certains endroits où tu n'avais peut-être pas le choix entre la cover 3D et ta cover régulière.
Ouais, c'était plus compliqué d'avoir des 3D que des normales, en fait, parce que les 3D étaient complètement... Il y avait beaucoup d'allocations, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les quantités demandées. Mais sur les 2D, il n'y avait pas de problème de quantité, donc voilà. Mais
on verra les chiffres de vente d'ici, je pense, 2 semaines.
Laissant
qu'ils soient publiés, on verra. La mauvaise nouvelle, c'est que DC risque d'être bien devant dans le top, et ça va les motiver à refaire une connerie pareille. Et c'est le problème, c'est que c'est nous lecteurs qui perdons au change, quoi. Parce que les covers sont peut-être très belles, mais on a dépensé $1 de plus pour de la merde, quoi. Pour de la merde qui servira pas à grand chose pour la grande majorité. Moi je dis, s'il y a un quart des numéros à sauver ce mois-ci, c'est déjà énorme.
Oula, oui, tu vois où, toi, hein.
Bah oui, j'essaye d'être optimiste.
Félicitations.
Benny, un petit mot sur ce Villain Mons.
C'était une très belle synthèse fleurie de ta part.
Ouais, écoute, c'est le début de l'automne. J'essaye de ramener les dernières fleurs qui peuvent rester encore.
Oh putain, c'était beau, c'était très poétique. Bravo.
On va passer à la partie indé maintenant. On va commencer avec de la poésie. Oui, Benny.
Non, je disais vite la suite. J'ai la gorge nouée, je peux même plus parler.
On va passer à de la pure poésie dans sa plus belle forme avec la sortie du Jupiter's Legacy numéro 3, scénarisé par le maître de la poésie Frank Millar et dessiné
Mark Millar,
bien sûr. J'ai dit quoi?
Frank Millar.
J'ai dit Frank. Oh putain, merde. Pardon.
C'est Mark Millar et Frank Whiteley.
Oui, voilà, j'ai fait un mix des deux.
Mark Millar
est bien. Donc dessiné par Frank Whiteley. Alors, j'en ai fait mon coup de cœur de la semaine. Bon, j'ai pas lu énormément de trucs cette semaine.
Hervé
Villard
aussi
de temps.
Dessus. Pardon.
Sur le retour. J'en ai fait mon coup de cœur de la semaine parce que la série va prendre un tout nouveau tournant avec cet épisode. Un tournant qui, certes, était attendu, mais pas, enfin, pour moi, pas à ce point. Je m'attendais pas à une virée des choses comme ça. Et c'est surtout aussi la promesse de ce qui va venir qui me donne vraiment envie de lire la suite et qui va en faire mon coup de cœur. Bon, les relations avec, entre l'Utopian et les autres personnes à pouvoir sont au plus mal.
Nous, on va le dire comme ça.
Résumé comme ça. Et il va payer très cher d'avoir été le leader. Un petit peu contre le gré de certains qui se sont rangés à son avis juste parce qu'il était plus fort qu'eux. Voilà. Je peux pas en dire vraiment plus sans vraiment spoiler. C'est un peu le problème. Tu l'as lu aussi, Sam?
Oui, pas du tout mon coup de cœur.
Oui, mais
Comme t'as dit, c'est en fait c'est le développement de l'histoire qu'on attendait depuis le numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait c'est ce qu'on aurait dû avoir dans le numéro 1 selon moi. Parce que
Ah
là
ben.
on a quand même eu deux épisodes très très chiants et ça commence à se remuer enfin sur l'épisode 3. Merci, c'était sympa. Voilà.
Là, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que justement, si on avait eu ça dès le numéro 1, on n'aurait pas non plus eu les mêmes enjeux de poser.
Je sais
Là,
pas,
on
parce
a
qu'il faisait un premier épisode de 35-40 pages,
eu. Ouais.
avec un truc plus synthétisé de ce qu'on a eu sur les trois épisodes, ça passait mieux. Parce que par exemple, la fin du premier épisode, c'est pas une fin. Pour moi, c'est du n'importe quoi.
Je sais
C'est,
pas,
c'est,
moi,
c'est, non, c'est même pas du n'importe quoi, c'est du rien, en fait, pour ça.
pour moi, il a vraiment posé les personnages, il a vraiment posé la situation, et justement, on prend en pleine gueule ce revirement, beaucoup plus fort, je trouve, maintenant que si ça avait été dès le premier épisode, puisqu'on n'aurait pas eu ce sentiment d'attachement au personnage.
Pas moi, parce que j'ai pas de sentiment d'attachement aux personnages, parce que les personnages sont des personnages types de Mark Millar, c'est-à-dire avec des personnalités complètement surappuyées. Voilà, il y a des discussions entre la fille et sa mère qui sont mais téléphonées comme c'est pas permis. Je veux dire, on serait à la télé, mais ça, le type se ferait descendre, quoi. Parce que c'est des dialogues, mais qui ressortent de comics des années 80, des années 70. C'est quasiment enfantin, quoi, comme dialogue.
Certes, mais je préfère quand même ça à un Kick-Ass, tu vois.
Oh,
Largement même.
je nie pas Kick-Ass, cette chose innommable, donc je ne peux pas le dire. Mais voilà, mais c'est-à-dire qu'il essaye de faire des dialogues sur des relations, alors que c'est clairement un sujet sur lequel il comprend que dalle. Il ne maîtrise pas ça. C'est toujours surappuyé, très mal géré, enfin c'est du n'importe quoi.
La promesse de ce qui va venir ensuite, c'est que pour l'épisode 4, on aura un gap de 9 ans. Et on va voir ce qui s'est. Enfin, on va découvrir la nouvelle situation 9 ans après les événements de cette fin d'épisode. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller voir la suite, voir comment ça a tourné. Ce que j'espère, c'est qu'on n'attendra pas aussi longtemps.
Oui. Bah ça a pris 3 mois quand
Mais
même
bon.
pour le c'est tout.
Bah, c'est tout. Je suis désolé,
Mais c'est du Frank
non.
Whiteley, 3 mois, c'était le
Ça
délai
a été
minimum, hein.
retardé, ça a été retardé, ça a été retardé parce que Frank Whiteley était pas prêt. Et là, le problème, c'est que déjà, dès le troisième épisode, il y a un gros dérapage. Et j'ai bien peur qu'on ne voit pas l'épisode 4 avant 2014, quoi.
Ouais, je pense aussi, hein.
Mais c'est le problème de Frank Whiteley. Il est peut-être très bon, mais putain, qu'est-ce qu'il est lent, quoi.
Là, il fallait pas lancer la série alors
Il semble qu'il
qu'ils
a eu
avaient
des problèmes
qu'un
de
numéro en
santé.
caisse.
Ouais, bah ouais, mais à ce moment-là, enfin, autant l'avouer clairement, je pense que les gens seront peut-être plus enclins à pardonner le retard, tu vois.
Ouais, non, c'est
Non,
vrai.
maintenant il faut un mot des parents dans le cahier de correspondance, je suis désolé.
Mais surtout quand tu lances ta série en disant on l'a retardé parce qu'on voulait que ça sorte à l'heure.
Là,
Tu vois?
le numéro 4 est annoncé pour le 20 novembre, donc il va falloir
Oui,
qu'il
bien sûr.
essaye pas d'imiter la
Oui,
signature de ses parents, surtout.
tu sais,
Parce
le
qu'on s'en rendra
numéro 3 a
compte.
été annoncé pour le mois de, je sais plus, le mois de juillet, je crois.
Oui, parce que le
Oui.
dernier sera sorti en juin.
Ouais, mais du coup là ils ont espacé à deux mois à peu près entre chaque numéro presque là.
Bah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, en tout cas, moi, c'est un bail pour moi. C'est mon coup de cœur de la semaine. Un coup de cœur qui ne se base que sur 8-7 lectures. Donc, il y a peut-être des choses que j'ai ratées, hein,
Oui,
effectivement.
je te le confirme.
Un coup de cœur par dépit, on va dire.
Et donc, toi, Sam, ta note?
Check it pour Franco et lui.
Check it. Ouais, Frank Whiteley, quand même, même s'il a été malade, en tout cas, très en forme sur ses pages.
Voilà.
Il y a
Et comme
notamment une
d'habitude, il
page.
donne tout et c'est très bon. Mais
Il y a
c'est
une
juste le
page
scénario qui,
splash
pour
qui est
moi.
vraiment dégueulasse, mais qui est sublime à la fois. C'est
Voilà, oui.
tout le paradoxe, quoi. On va passer à un nouveau titre, un titre qui était très attendu, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire, et que j'aurais bien voulu. Bruno, tu vas nous dire si ce fameux Sex Criminals numéro 1 est bien ou pas.
Ah bah oui, ça déchire, ça déchire. Donc Sex Criminals, c'est écrit par Matt Fraction et c'est dessiné par Chip Zdarsky. C'est une histoire un peu folle. Là, le premier numéro, ça nous présente l'héroïne principale, qui est Suzanne, Suzy. En fait, elle va nous parler de sa vie et elle va nous parler de son pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a un pouvoir particulier, c'est que quand elle jouit, le temps s'arrête. Et
Ah.
mais le temps s'arrête vraiment, c'est-à-dire que toutes les choses autour d'elle sont figées et elle peut commencer à marcher un peu comme dans Charmed, je crois, il y avait un des personnages qui pouvait arrêter le temps comme ça.
Mon Dieu,
Et
quelle référence.
oui, désolé pour la référence.
En
Mais
jouissant.
le temps est un petit peu limité en fait, elle sait pas exactement combien de temps le temps sera figé. Et donc bah ça a été un énorme problème pour elle
Il
dès la
serait-ce
première
dépendant
fois
de
où...
la force de l'orgasme?
Bah, en fait, peut-être, mais ça apparaît. En fait, c'est très très bien écrit, puisqu'en fait, on a des flashbacks qui expliquent qui elle est. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est raconté par le personnage adulte, mais qui se place dans les scènes où on la voit à la fois jeune et adulte, et on la voit qui commente sur sa vie. Et du coup, c'est vrai que la narration est vraiment très agréable à suivre. Voilà, sa première expérience arrive lorsqu'elle prend un bain un jour avec de l'eau chaude qui frôle ses parties intimes. Et donc elle est complètement perdue, c'était ses premiers émois sexuels. Alors on voit qu'elle essaye de comprendre si toutes les filles sont comme elle, si ça arrive aussi à toutes les autres filles. Donc on la voit essayer de discuter avec les autres jeunes, un peu les pains beiges de l'école. On a droit à pas mal de scènes qui sont vraiment très drôles, dont un peu la star du lycée qui explique à l'héroïne quelles sont les différentes positions sexuelles qu'il faut absolument connaître. On a droit à des magnifiques dessins et à des scènes très 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 drôles. Voilà.
Je te coupe juste une seconde. Sam, es-tu là?
Oui.
Je vérifie si tu as coupé ton micro, parce que comme Bruno a dit plusieurs fois, c'est vraiment bien écrit, bien raconté, etc. J'avais peur que tu aies coupé ton micro pour hurler, tu vois, sans que ça s'entende. Je me demande.
Je hurle intérieurement.
Non, mais c'est vraiment super bien. Et donc, tu avais dit, Benny,
Enfin... Là, en gros, il nous raconte un gros truc de cul depuis le début en disant que c'est vachement bien, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à
oui,
part ça, quoi?
Mais justement, ça, c'est un truc de cul, mais en fait, il y a peu de scènes explicites.
Ça allait être ma question, justement. Et comment
c'est
mis en scène?
C'est beaucoup d'humour. D'ailleurs, le trait est très cartoony, hein, mine de rien. C'est très très beau, avec une colo somptueuse. Alors, le coloriste ou la coloriste, c'est que je retrouve les crédits. C'est Becca Kinsey. C'est vraiment superbe. Les effets justement où le temps s'arrête, on a droit à une sorte d'effet un peu stromboscopique lumineux sur les cases qui rend vachement bien. Et en fait, le comics démarre avec justement, on voit l'héroïne avec un homme, un Jonathan, qui sont en train de baiser dans une salle de bain. Et il y a la police qui les appelle et qui dit, on va vous arrêter et tout.
Bonjour,
c'est votre
police.
Dernière chance. Voilà. Et donc en fait, c'est ça, c'est que le pitch, c'est qu'ils vont utiliser ce pouvoir. Enfin, elle va utiliser ce pouvoir pour pouvoir après commettre des crimes et tout particulièrement cambrioler des banques.
Et sérieusement, on dirait le scénario d'un film érotique sur la 6, quoi. Ça fait peur.
Non,
hein.
Franchement, faut que tu le lises. Voilà. Ça fait être mon coup de cœur et franchement, c'est un titre j'attends avec impatience.
C'est ton coup de bite.
Le deuxième, ouais, ça aurait pu, mais
ouais, mais la bite sur le cœur, ça n'a aucun intérêt.
C'est pas un comics.
Oh bah Bruno, il a la bite sur le cœur, crois-moi. Hein.
Non, c'est pas un comics excitant. Les dessins sont très cartoony. Comme je dis, il y a pas vraiment de sexe cru à l'écran, enfin sur les images.
De pervers, oui.
Mais voilà. Mais par contre, c'est vraiment très frais. On a vraiment envie de voir la suite et là où ça va aller. Et donc pour moi, c'est un bon gros bail. Et absolument tester ce numéro.
Et on verra s'il sera vendu sur l'Apple Store ou pas. Le petit tac.
C'est moins trash que justement le panel qu'il y avait eu dans Saga. Qui avait justement posé problème.
Ouais, mais là, il y a le mot sexe, alors tu sais, avec l'Apple Store, on sait jamais.
Vrai. C'est vrai, c'est vrai.
On va passer à la suite, un autre démarrage de série, ça s'appelle Rat Queens numéro 1, c'est Sam qui va nous en parler.
Oui, chez Image Comics, c'est scénarisé par Curtis G. Webb et dessiné par Rock Upchurch. C'est l'un des derniers comics donc, de la ligne Shadowline, qu'on connaît bien chez Image, parce qu'ils ont sorti quand même quelques petits bijoux depuis 2 ans, notamment un certain Morning Glories.
Même au départ de la ligne Shadowline, mais elle a toujours été en retrait, la ligne Shadowline.
Ouais. Mais depuis 2 ans, ils sortent pas mal de projets indés.
Ouais, il y a eu Five Weapons, ouais, qui était très sympa aussi, j'avais bien aimé.
Bah, il y a eu un grand retour, ouais, effectivement.
Un grand retour, un grand renouvellement des séries. Donc, Alors, ça va être extrêmement dur de résumer la série, parce qu'en fait, on est narrativement plongé dans le monde de Rat Queens, en plein milieu d'une conversation. Donc il n'y a pas vraiment d'éléments de contexte qui sont donnés. On comprend qu'on est dans un monde d'heroic fantasy, dans une ville où en fait différentes races coexistent, donc les humains, les nains, les elfes, ce genre de trucs. Et on est en plein conseil municipal de la ville d'une ville, donc de cette grande ville.
Palissade.
Palissade, voilà, je cherchais le nom. Et en fait ils discutent sur le problème de sécurité que pose une bande au sein de la ville, qui est, on le comprend très vite, les Rat Queens. Puisqu'en fait, les Rat Queens sont à l'origine censées maintenir l'ordre au sein de la ville, mais ont tendance à foutre le bordel, puisqu'elles ont chopé tous les criminels. Donc c'est un peu le bordel. On les voit ensuite se voir assigner une mission qui les fait globalement très chier, puisqu'on leur dit d'aller nettoyer un nid de goblins. Et ça va assez mal tourner puisque il y a différentes équipes de sécurité dans la ville et il y a quelqu'un qui commence à les chasser, en fait, à les tuer carrément. Et les Rat Queens est tout en haut de la liste. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cet épisode? C'est que c'est absolument hilarant. C'est-à-dire que les dialogues sont... On va dire que c'est assez vulgaire quand même, hein, parce
Ah oui,
que... Oui, bah...
c'est mature hein, les dialogues.
Voilà, disons qu'il y a,
On
il y
est
a par
chez
exemple...
Shadowline en même temps.
Voilà, il y a un gobelin dans la bande et elle t'explique à un moment que les goblins ont un goût particulier pour expulser des choses de leur corps tout en, mais aussi de les faire rentrer. Elles adorent ça. Voilà.
Finalement, on a bien fait de le
Ouais.
placer juste après s'exprimer, donc, je crois.
Ouais, voilà, ça
Voilà.
va bien. Mais c'est vrai que le personnage de Betty, qui est une gobeline qui fait partie de cette équipe,
Voilà, qui a
est un
en
personnage
plus
qui
un
est à
visage
fond sur le
d'enfantin.
sexe.
Ouais.
Elle est à fond sur le sexe et c'est vrai qu'elle est
Elle
très très drôle.
essaye d'inciter les autres à essayer de s'envoyer à l'air parce qu'il y a quand même une coincée, enfin qui est une coincée mais une guerrière quand même, parce que qui est quand même assez
Ouais.
badass. On le comprend assez vite quand elle commence à se battre et que elle se fait blesser de partout et je m'en tape. Moi, je veux juste me battre.
Ouais, c'est le tank, quoi.
Voilà, c'est
Ouais,
le tank, mais elle a un
c'est
physique
énormément de clichés,
de.
hein.
Mais est-ce que vous en décrivez? J'ai quand même l'impression que ça tisse, enfin ça utilise pas mal la fibre du jeu de rôle, hein.
Oui,
Ah bah,
pas mal,
c'est
mais
clairement ça, hein. C'est clairement
en
ça.
les détournant complètement parce que les personnages sont toutes les quatre complètement allumés.
Moi, ça me donne sacrément envie d'aller voir quand même.
Oui, parce que
Ouais.
c'est franchement, leurs échanges sont hyper drôles. Voilà, elles boivent, elles baisent, c'est complètement cinglé. C'est vraiment mon
Moi,
coup de cœur
c'est.
de la semaine. J'avais vraiment besoin de ça parce que les autres lectures, moi, m'avaient un peu. Là, et je suis tombé là-dessus. Ça m'a remis d'aplomb. Voilà, donc
Du
Ratwins,
baume au
c'est très
cœur.
bien. Voilà.
Bruno.
Ouais, c'est moi aussi mon coup de cœur de la semaine. Bon, graphiquement, on n'est pas revenu dessus, mais c'est vraiment très beau.
Oui, c'est
Un
très
style
très
qui est très
maîtrisé.
propre et très dynamique, très maîtrisé.
On voit
Les
qu'il arrive
quatre.
à différencier les personnages, ce qui est difficile
Ouais,
quand on a plusieurs
tout à
personnages
fait, ouais.
féminins, et il y arrive très bien.
Et quatre personnages qui ont énormément de charisme, qui sont toutes différentes. Une magicienne, bien sûr. Et voilà, quand tu dis Steve qu'il y a beaucoup de clichés un peu de jeux de rôle et choses comme ça, c'est carrément ça, même au niveau des termes qui sont employés. C'est-à-dire que les Rat Queens sont dégoûtés parce que la mission qu'ils vont avoir, ça va pas leur amener de loot. Donc elles le disent clairement. On voit d'autres tous les clichés du RPG qui sont là. Mais c'est vraiment mis, enfin c'est écrit tellement de façon fun. Qu'on prend un pied pas possible à lire ça.
Ça me donne sacrément envie d'aller voir.
Voilà, donc franchement un gros coup de cœur, un gros bail pour moi cette semaine et vivement le deuxième épisode. Ça peut être une belle surprise, un petit peu comme Saga l'année dernière,
Oui.
si ça prend un peu plus d'ampleur, on va dire au niveau du scénario.
Sachant qu'on a appris que c'était déjà sold out, le premier numéro.
Ah bah déjà. Toi Sam qui a lu Skull Kickers, qui était un petit peu dans cet esprit-là aussi, est-ce que c'est un peu du
Beaucoup plus
même
trash.
acabit?
C'est beaucoup plus trash, hein. Ça
Beaucoup
va
plus
beaucoup
trash,
plus
mais on
loin.
est dans le même acabit au niveau
Ouais,
humour
niveau humour,
avec.
ouais. C'est le même ton léger pour le moment et fun en fait. Voilà, série qui se prend pas la tête.
Ok,
Qui veut
bah.
juste plaire à son lecteur et voilà.
Ça finit de m'achever pour aller voir. Voilà, c'est bon. On va passer à la suite. On va encore rester chez Image. Putain, mais qu'est-ce qu'ils en ont cette semaine des choses? Avec le grand retour de Todd, The Ugliest Kid on Earth, numéro 5, pour le début de son côté régulier. Hein, c'était une mini au départ. Et c'est Mr. Honey Bunny qui va nous en parler.
Et oui, et moi je suis super content car je retrouve ce super comic que j'avais présenté dans un Comics Weekly il y a de cela quelques temps déjà. Mais c'était une très bonne découverte ça. Alors, l'histoire est de Ken Christensen et les dessins de M.K. Parker. Donc bah, c'est toujours les mêmes, hein, je crois, hein, de toute façon. En tout cas, j'ai pas remarqué de changement. Alors là, par contre, depuis le premier volume, nous avons maintenant deux gamins avec une tête dans le sac. Donc nous avons non seulement le héros principal, mais Sandy maintenant, une jeune fille qu'ils ont récupérée et ils lui ont aussi mis un sac sur la tête. Cette famille un petit peu complètement déglinguée. Et alors, il y a tellement de choses à dire en fait sur ne serait-ce que sur cet épisode. C'est toujours aussi caustique, aussi grinçant, aussi irrévérencieux. Mais je m'arrêterai surtout sur au fait, bah, déjà le thème principal, ils se rendent en famille donc à la Comic-Con. Et c'est une espèce de parodie de Comic-Con, mais alors c'est énorme. Nous avons donc Joe Quesada, enfin Joe Quesadilla, devant Bendy c'est marqué You're Brian Ness, T'as Matty Percent pour Matt Fraction. Voilà. Pourcentage
ah,
au lieu
bon.
Des...
Franchement, enfin, bon. C'est très très bon.
Oui, voilà. Et tu sais, t'as tout un discours de Quesada, mais qui est ridicule, qui est une énorme parodie. En plus, on le reconnaît bien, Quesada, avec sa chemise et tout. Et alors, il dit, y en a qui en ont marre de nous, etc. Donc, on va donner aux fans ce qu'ils veulent avec le Marvel Hold.
Ah, je serais tellement content.
Et tu vois un fan en plus dans le public, tu sais, avec un t-shirt X-Men qui fait, ouais, il y a pas assez de X-Book. Et puis tu sais, t'as plein de gens qui rigolent et tout. Enfin bon, c'est vraiment une grosse parodie de la. Le mec se fait sortir. Oui, le mec se fait sortir et tabasser aussi. Le mec qui veut plus de titres X-Men. Enfin bon, c'est juste ça. Et ça c'est juste deux pages grosso modo. Hein, cette espèce de parodie de Comic-Con. Il y a tellement de choses dans ce comic. C'est hilarant. Et puis c'est c'est tellement vrai au fait ce qu'il dénonce à travers cet humour que. C'est mon coup de cœur, et pour nous tous, c'est, je dirais, un bail absolu. Il faut vraiment que vous testiez cette série. Parce que c'est excellent. C'est vraiment un truc, on passe un moment délicieux, et en plus, il y a vraiment matière, quoi. C'est très riche.
J'observe qu'on est quatre. Nos quatre coups de cœur, c'est les titres images.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Ça calme.
C'est le hasard, mais.
Comme c'est bizarre. En tout
cas, c'est moi, pas la première fois, quand même.
Tu m'as eu avec Joe Quesadilla, et effectivement, oui, c'est délicieux. franchement, j'irai voir, obligatoirement.
Ouais. Non, il faut, c'est vraiment très très bon.
Donc, un gros bail, j'imagine.
Oui, un gros bail, mon coup de cœur, et pourvu que ça dure, surtout, pourvu que ça dure.
Bah, c'est bien parti pour, hein. De toute façon, le succès de la mini l'a fait transformer en ongoing, c'est bien la preuve qu'il y a de la demande.
Et pour une fois, d'ailleurs, j'aimerais nous passer un petit coup de pommade. Comicity, c'est aussi ça. On vous fait découvrir des séries qu'on n'a pas forcément en France et qu'on n'aurait pas forcément découvert ailleurs, puisque je crois qu'on est un petit peu les seuls à en parler de ce titre, pour le moment en tout cas.
Je sais pas, j'ai pas été voir ailleurs honnêtement.
Bah, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu nulle part, très très franchement. Voilà.
On va continuer sur notre partie indé, on va aller chez Vertigo maintenant avec la sortie du quatrième épisode de The Wake, toujours scénarisé par Scott Snyder avec des dessins de Sean Murphy et une séquence d'intro qui m'a perdu.
Ah, totalement. La séquence qui se passe 100 000 ans dans le passé.
100 000 ans dans le passé et j'ai plus rien compris.
Oui, mais c'est normal. C'est...
Je me demande si toutes ces petites séquences ne sont pas faites juste pour nous perdre et qu'elles n'auront au final rien à voir avec l'histoire principale.
Si. D'après ce que j'ai lu une interview de Scott Snyder, en fait tout est lié. Et on commencera normalement
tout
à le voir. On commencera en fait à comprendre pourquoi il nous met ces petits trucs dans le prochain épisode.
On commencera à comprendre à l'épisode 11. Hein, quoi ? C'est pas normal. c'est de l'action. Vraiment, c'est de la grosse action dans cet épisode. Mm-hmm. Ça n'arrête pas. C'est Alien mélangé à Abyss. Voilà.
Oui.
Je vois pas comment.
C'est l'équipage, en fait, les survivants qui essayent d'échapper aux centaines de monstres sous-marins qui veulent tous tout bouffer.
Ouais. Moi, j'ai, si je peux donner mon avis là-dessus, parce que j'ai récupéré le retard que j'avais sur The Wake, puisque c'est la première fois que je les lis. Donc j'ai tout lu à la suite. Et je dirais que ce qui différencie quand même pas mal cette série d'un Walking Dead, c'est que dans Walking Dead, ils te rendent vraiment les situations réalistes par des dialogues très réalistes qui font que tu te mets vraiment à la place des personnages. Là, t'as vraiment l'impression d'être justement devant un film comme Alien ou comme je sais plus ce que vous aviez cité. Oh oui, Abyss, etc. Mais
bah,
t'as vraiment
des profondeurs, hein, tout simplement.
Ouais. Mais t'as vraiment l'impression d'être devant un film avec tous les clichés et les codes que ça comporte. Par exemple, leur camarade se fait dézinguer. 5 minutes après, ils sont plus tellement traumatisés et le mec te raconte un souvenir d'enfance, une légende dont il se souvient, par le menu, comme ça, l'air de rien. C'est un petit peu comme si on était à OLCF, je me fais écraser par une bagnole, vous êtes traumatisé, et puis Steve, 5 minutes après, il sort sa clope et il fait « ça me rappelle une histoire de quand j'étais jeune ». Et tu vois,
franchement, je trouve que t'es vachement optimiste parce que j'attendrai 2 minutes 30.
Ouais. Non mais enfin, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que la série est très bonne, mais... C'est pas du tout dans le même type de catégorie qu'un Walking Dead.
Ouais, mais moi, je vois pas pourquoi aussi. Tu le compares à Walking Dead, quoi, parce que ça
je sais pas, parce que
pas du tout l'aspect de Walking Dead. Enfin, j'ai jamais utilisé là-dessus au niveau communication, en tout cas.
Non, bien sûr, mais je m'attendais à un truc un peu plus comme ça, parce que voilà, c'était le gros projet horrifique de Snyder, et je me suis dit, si ça tombe, c'est un truc, bon, bah, un petit peu de cet acabit. Et au fait, on est vraiment, ouais, on est dans un aspect très cinématographique, quoi, des choses.
Mais je trouve que ça fonctionne clairement. Bien. Je veux dire, c'est cinématographique, mais c'est clairement assumé, ce qui fait que du coup, ça fonctionne. Ouais. Plutôt c'est qu'emprunter les codes au cinéma et dire on fait du comics. Mais non, enfin, je veux dire, là clairement, c'est du cinéma.
Oui, ouais, c'est grâce à Sean Murphy surtout. Sa mise en page, c'est très.
Ouais, c'est simple et efficace. Mais ça ne révolutionne pas la poudre, quoi. Je veux dire, ça ne réinvente pas la poudre, je veux dire.
Voilà. Ouais, mais j'ai envie de dire, finalement, les comics qui ne révolutionnent rien, mais qui sont juste bons à lire en ce moment, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux sur le marché. On a pas mal de comics comme ça ces derniers temps qui n'ont pas la prétention de révolutionner le média en disant « Ouais, je vais faire le meilleur truc qu'on ait jamais vu ». Ils font juste une bonne histoire, agréable à lire, on prend un bon moment, et je crois que c'est vraiment ce qu'on a besoin actuellement quand on voit le nombre de merdes qu'on se tape toutes les semaines, quoi.
C'est sûr, c'est sûr. Mais je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus énorme, dans le sens où, bah voilà, je vous avais entendu en parler, et puis ça me donnait vraiment envie. C'est sympa. C'est sympa.
Voilà. Moi, j'attends avec impatience l'adaptation cinématographique, hein, d'ailleurs.
C'est prévu, ça?
Je sais pas, mais ça m'étonnerait pas, quoi. Ça m'étonnerait pas que ce soit dans les tuyaux, sans jeu de mots, avec la flotte. Avant que quelqu'un la fasse. non, vraiment, enfin, je pense que ça fonctionnerait très bien, quoi. De toute façon, au niveau storyboard, ils n'auraient pas besoin d'en redessiner d'autres. C'est déjà tout prêt. Bah, du coup, Sam, ton avis vite fait sur ce 4 ?
Ça se lit effectivement très vite. Ça tient essentiellement sur le dessin de Sean Murphy. Comme je l'ai dit, mise en scène très cinématographique. Voilà, il utilise à plein son ancrage pour bien montrer le côté obscur, en fait, des abysses. Mais j'ai trouvé la fin un peu abrupte. Ça vient un peu d'un coup et voilà, le côté un peu rapide m'a un peu déçu.
Bah, franchement, j'ai quand même l'impression que tous les cliffhangers sont comme ça, hein, sur cette série. Chaque cliffhanger, tu le prends en pleine tête et tu fais merde, fini, ah mince.
Je sais pas, les premiers épisodes, ça me faisait pas ça, parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de contenu, et là il y en a quand même un peu moins. Voilà, c'est un peu moins riche cet épisode. Bien que la dernière page est quand même superbe. Visuellement, ça donne quand même. Hein.
Donc les notes.
Ça reste un bail, mais voilà, ça sera un bail moins quand même.
Ouais, un bail pour moi. Moi, je
petit coup de mou quand même. Un petit coup de mou dans cet épisode.
Un petit coup de mou alors que c'est que de l'action.
Voilà, ouais.
C'est paradoxal, Sam.
Bah, c'est surtout que l'intrigue n'avance pas. C'est pour ça. On voit les personnages essayer de s'échapper, mais c'est tout.
Benny ?
Un bail simple et efficace.
Aussi. Ouais. On passe à un autre nouveau projet. Bruno, tu vas nous parler de Criminal Macabre.
Oui, The Eyes of Frankenstein. Donc, ce Criminal Macabre, en fait, c'est une série anthologique un petit peu, qui a été créée par Steve Niles et qui a eu plein de mini-séries et qui s'intéresse à un personnage qui s'appelle Cal MacDonald, une sorte de Constantine un peu, un personnage qui gravite autour des milieux un peu paranormaux.
Mais avec un visage de clown.
De visage de clown.
Bah oui, McDonald's, quoi.
Ah, oh là là.
Oui, excusez-moi.
Là 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 là. Et on peut même pas le faire sortir.
Ouais. En fait, j'ai découvert le titre ne sachant pas qu'il y avait tout un historique sur le personnage, sachant qu'il y a déjà deux omnibus qui sont sortis chez Dark Horse. mais finalement, on peut quand même commencer le titre comme ça, sans vraiment savoir ce qui s'est passé avant, puisqu'il y a un petit récap au début du comics. C'est un univers voilà où il y a le paranormal qui est à fond, qui est présent. Donc il y a des luttes intestines entre les ghouls et les vampires. Ça commence avec une scène d'accouchement assez crade, puis après on retrouve le personnage du héros qui est de son sidekick qui est un ghoul, un majordome ghoul. Là le comics m'a plu surtout par la qualité des dialogues en fait. Steve Niles nous fait des dialogues vraiment très très bons avec beaucoup d'humour. Graphiquement c'est pas un titre qui m'a énormément marqué, j'ai pas dit les crédits, c'est Christopher Mitten au dessin. C'est sympa, mais sans plus, c'est parfois un petit peu brouillon, je trouve. Le gros problème du comic, c'est qu'en fait, on lit l'histoire, on rentre dedans, c'est bien. On voit après, il y a un rapport bien sûr avec Frankenstein qui arrive vers la fin du comics. Mais on a l'impression que c'est plus quelque chose qui a été réfléchi comme un TP plutôt que comme une série ongoing, enfin comme une mini-série qui est en single, parce que déjà le cliffhanger, c'est pas un cliffhanger, c'est un, ça te laisse vraiment au milieu d'une action, tu sais pas trop ce qui va se passer, et t'as pas vraiment de suspense ou un truc comme ça, donc ça m'a un petit peu déçu. Après les prémices de l'histoire, je trouve ça plutôt correct, donc un check it, je pense que les gens qui connaissent déjà la série Criminal Macabre, ça vaut vraiment le coup qu'ils se lancent dessus, parce que c'est vraiment sympathique à lire. Voilà, pour moi ça reste un petit check-it et j'irai quand même voir la suite pour voir où ça va nous mener, parce que comme je vous dis, le cliff était tellement raté presque que j'ai envie de voir quand même où il veut aller avec cette histoire.
C'est une mini en 4, hein, je sais pas si tu l'avais précisé.
En 4. Exactement, en 4.
Par contre, je pense que tu as touché du doigt le problème du non-cliffhanger, c'est que c'est une série qui est déjà installée, donc de toute façon, ceux qui connaissent vont y aller et continueront d'acheter ceux qui aiment la série. Mais ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de Criminal Macabre, donc un petit retour.
Un petit retour, et ça m'a donné envie aussi, parce que le personnage est quand même très charismatique, même s'il y a un gros côté Constantine. Même s'il a pas mal évolué a priori dans ses aventures, et ça m'a donné envie d'aller regarder peut-être les premiers épisodes et voir ce que ça donne.
On va terminer notre partie indé avec Sam qui va nous parler du 6e épisode de East of West.
Oui, toujours écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Nick Dragota. Donc un épisode décomposé en deux parties. La première partie suit le conseil, ce que j'appelle le conseil de l'apocalypse, donc avec les représentants des différentes nations américaines qui se réunissent et qui, en fait, sur la parole du prêtre principal, vous savez, du culte de l'apocalypse et des quatre cavaliers, leur révèle qu'il y a un traître parmi eux. Le traître est révélé et on ne va pas vous dire qui c'est et ce qui lui arrive. Donc ça sera à voir, mais ça fait évoluer le récit. Donc c'est pas une grosse révélation puisqu'on l'avait déjà vu dans les épisodes précédents. Et la seconde partie c'est plus centré sur la République du Texas où ils ont une vision très particulière de la justice et Hickman nous montre en fait comment le système a été nettoyé complètement puisqu'en fait le Texas était le ultra méga giga méga corrompu. C'est-à-dire que les juges étaient les plus corrompus qui soient, mais étaient les moins chers des corrompus.
C'est pas déjà comme ça au Texas?
Ouais. Et en fait, mais pas pour longtemps, puisque en fait, un jour, en fait, il t'explique comment un flic a vu sa famille exterminée et décide de se venger, et notamment commence par les juges, et ça va devenir les Texas
c'était
Rangers.
C'était Chuck Norris. C'était,
oui, c'est les Punisher Texas Rangers.
Et en fait, est-ce qu'il s'appelait Dredd, ce flic?
Quasiment pas. Non, c'est plus les Punisher, là. Vraiment, Punisher façon Texas Ranger. C'est franchement jouissif, en fait, cette partie-là. Donc, d'accord. En fait, ça introduit un nouveau personnage dans ce récit déjà très riche en personnages différents et complètement barrés. Donc, ça reste un bail, hein, parce que ça reste complètement allumé. Il y a un peu moins d'éléments fantastiques que dans les 5 premiers. Donc, ça, c'est un peu plus terre-à-terre, mais ça reste bien allumé.
C'est vrai que pour ma part, j'ai lâché, pas parce que j'aimais pas, c'est juste parce que j'ai pas eu le temps de lire la suite, en fait. Donc j'ai pas lu après le premier épisode.
Il faut vraiment reprendre, mais tape-toi les 5 épisodes d'affilée. Sinon.
Ouais, ce sera pas cette semaine, hein.
Oui, clairement. Ouais, je pense pas, non.
Tu l'avais continué, toi, Benny, cette série ou pas?
Pas du tout. Pas du tout.
Bah, il faut, parce que c'est bien.
Je l'avais pas continué. J'avais lu le premier, j'avais plutôt bien aimé. Par contre, évidemment, faut que je la reprenne maintenant du premier. Et je vais peut-être attendre une sortie française qui devrait arriver. Hein,
oui, je pense, chez Delcourt, ça finira par arriver.
Oui, de fortes chances que ce soit chez Delcourt, effectivement. Donc un bail, Sam.
Oui, un gros bail.
On va maintenant passer à Marvel pour conclure cette émission. On commence par une des grosses sorties du mois, c'est de la semaine. C'est Infinity the Heist numéro 1, mini-série en 4 épisodes, si ma mémoire est bonne.
4, oui, c'est ça. Ouais, c'est tout ça. À fait, 4.
Ta mémoire, c'est de la merde.
c'est bien possible en
comme,
plus.
Comme Infinity the Hunt, deux petites séries qui sont sorties pour Infinity.
C'est scénarisé pour ce fameux The Heist par Frank Thierry avec des dessins d'Al Barrionuevo. Je l'ai écorché, mais c'est pas grave.
Putain, Frank Thierry. Barrionuevo. Frank Thierry, c'est jamais bon quand il sort Frank Thierry du placard.
Écoute, je vais dire que cet épisode des pas trop mal, c'est une sorte de réponse pour moi à Superior Foes of Spider-Man, en quand même moins bon et moins délirant, même s'il y a de bonnes tentatives. Voilà. L'histoire est simple. De toute façon, on l'avait utilisé déjà depuis quelques mois. Certains des ennemis d'Iron Man, et notamment Blizzard et Whirlwind, vont essayer de s'attaquer à du braquage de banque pendant que les Avengers sont partis dans l'espace, essayer de se battre contre les Builders. Finalement, dans cette banque, point d'argent et de diamants comme ils le pensaient, mais le Spymaster qui les attend pour leur proposer un énorme coup, à savoir aller braquer Tony Stark.
J'ai pas trop compris là, parce que normalement Iron Man il est toujours sur Terre.
Ouais, mais ça ils le savent pas.
Ah.
Ils le savent pas, ils ont vu les Avengers décoller et voilà.
Et ils pensent
et ils
que
se disent,
Iron
les
Man
Avengers
en fait
ne sont plus, ne sont plus là.
Tout à fait. Ouais. Mm.
Et bon, il y a une très bonne scène qui fait vraiment penser justement à Superior Foes au Spider-Man bon, dans, au départ, parce que bon, on voit le côté un peu loser des deux personnages, et puis après dans cette espèce de bar où se croisent tous les super vilains avec des dialogues plus ou moins bien sentis. J'insiste oui. sur le plus ou moins. Seul gros défaut, ce nouveau Whiplash. Ah. Je peux pas. Je peux pas.
Le bar, il s'appelle comment? Le Barry Nuevo?
Non, le bar, c'est le Black Market. Non, mais ce nouveau Whiplash qui est donc Mickey Rourke. Hein.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et moi, je suis désolé, je peux pas, quoi. Comme d'habitude, je ne peux pas accepter qu'on impose la franchise ciné dans les comics.
Ou bien, jamais, alors, ils avaient qu'à pousser vraiment le bouchon jusqu'à l'appeler Mickey Rourke dans les comics, quoi.
Non, mais enfin, je veux dire, il y a carrément la gueule, quoi. Faut arrêter.
Mais ça aurait été drôle qu'il l'appelle vraiment Mickey Rourke.
D'ailleurs, je ne me rappelle pas quand l'ancien Whiplash a disparu au profit de ce nouveau.
Dans un épisode d'Iron Man. Dans la saga Mask of the Iron Man. C'est
ah ouais.
la saga où l'armure d'Iron Man prend vie. Ça remonte à plus de 12 ans. Hein.
Et que donc le Whiplash avait changé?
Oui, parce que l'armure a en fait tué Whiplash.
D'accord.
Elle tue le mec. Elle lui brisait la nuque.
Ouais, donc il a dû changer de gueule depuis
Carlotti.
Parce que...
Voilà. Mm-hmm. Et après, c'est
à un moment, il avait été réintroduit aussi avec une tenue de sadomaso, là, je me rappelle.
Oui. C'était, ça devait être au moment de la sortie du film, je pense.
Oui, ouais.
Iron Man 2, donc ça doit dater de 2010. Hein.
Parce que à l'époque, il y avait eu une mini-série, justement, Whiplash, que je n'avais pas lu. Hein. J'avais fait l'impasse dessus parce que je m'étais dit produit marketing. Et je me demandais si c'était pas là, justement, que ça s'était passé.
Mm. Non, mais je vous propose un spécial Whiplash.
Il y aurait besoin parce qu'on s'y perd.
Tu veux pas qu'on l'enregistre demain comme ça, histoire de rajouter un petit podcast sur la semaine.
Un cinquième podcast dans la semaine.
Maintenant, je pense.
Bah, c'est un bon l'autoflagellation.
Je suis pas le seul à avoir lu. Hein. Tu l'as lu aussi, Bruno, ce numéro 1.
Ouais. Bah comme tu dis, c'est difficile de passer après Superior Foes of Spider-Man quand on a un ton qui est vraiment si proche. Mais après, voilà, c'est quand même un comics que j'ai bien aimé. J'ai trouvé l'humour plutôt bon. Il y avait aussi ce côté où finalement les deux personnages principaux au départ tu dis c'est des gros losers, mais j'ai bien aimé le contraste quand ils attaquent la banque et qu'on voit que c'est vraiment des bêtes féroces prêtes à trucider à fond la caisse avec des giclées de sang partout.
Ah bah ça tranche, ouais, ça c'est clair, ça tranche en deux.
Et du coup ça tranche entre l'humour et la violence des personnages. Et
Un pas qui n'est pas trop franchi justement dans Superior Foes pour le moment.
C'est ça. C'est pour ça que là, je trouvais qu'il y avait un petit élément un petit peu différent. Après, voilà,
temps,
c'est unique.
On est avec Frank Thierry, qui a déjà écrit notamment des comics Punisher et tout, donc
oui.
Il a aussi l'habitude de cartonner un peu, quoi.
C'est ça. Après, voilà, le casting qui nous est proposé pour cette série est quand même vraiment toute une série de bellistes personnages qui, ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse de voir leur vie, quoi, et leur petits problèmes, en fait, les uns avec les autres, et le pitch est bon, quoi. Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer l'armure d'Iron Man? On verra bien. Voilà, moi, c'est un bon gros check-it, hein, quand même.
Bah ouais, moi aussi, ce sera un check-it. Bah, comme tu l'as dit, c'est difficile de passer après Superior Foes au Spider-Man. Cette série serait sortie avant. Peut-être que ça aurait été un petit bail. Mais là, le ton de Superior Foes au Spider-Man est tellement supérieur que bah, ça souffre
ouais,
la comparaison,
la forme,
malheureusement.
Aussi, hein.
Oui, et la forme aussi, oui, mais... C'est vrai que, bon, du coup, on est un peu moins surpris et on a déjà vu ça, finalement. Voilà. Mais ça reste très sympa à lire, quand même.
Ouais, tout à fait.
On va continuer sur Infinity avec toi, Bruno, qui va nous parler du 20e épisode de Avengers.
Oui, c'est toujours écrit par Jonathan Hickman, avec des dessins de Lenil Francisciou et un ancrage de Gary Allan Gillan. Donc, voilà. Donc, Lenil Francisciou s'est ancré. Et, D'ailleurs, ça se voit un petit peu le. C'est un petit peu moins beau, je trouve, que les deux numéros précédents de Infinity. Je sais pas si c'était lui qui s'ancrait dans les précédents. Mais un épisode de transition qui va s'intéresser aux personnages des ex nihilo. Des personnages qui sont assez mystérieux et qu'on a vu qui sont à la botte des builders, les ex nihilo et les ex nihila, donc c'est les gardeners. Et en fait, il y a toute une petite trame qui en fait avait commencé à être annoncée dans les précédents numéros, mais pour lequel j'avais pas fait vraiment attention, qui du coup devient importante et j'étais assez surpris par ce qui se passe avec justement cette race de personnages. Voilà, donc un numéro qui mine de rien fait avancer pas mal l'action, même si voilà, c'est peut-être un petit peu moins efficace que les précédents numéros, sachant que j'étais un petit peu déçu quand même par le cliff qui,
Oui, de
je
fin.
trouve finalement manque un peu
D'impact.
enfin, d'impact, ouais, voilà. Mais ça reste vraiment toujours aussi agréable à lire cet événement Infinity, vraiment correct, quoi.
Tu l'as lu aussi, Sam.
Oui, un peu déçu aussi par cet épisode. Le seul vraiment. Il y a deux éléments importants qui sont. On peut le dire, la révélation, parce que c'était déjà dit auparavant que, en fait, le ex nihilo qu'on connaît est accompagné d'une Abyss, d'un personnage qui s'appelle Abyss. Et en fait, il est le seul ex nihilo à avoir encore une compagne Abyss avec lui. C'est-à-dire que tous les autres ex nihilo et ex nihila ont perdu leur Abyss. Donc il y a un équilibre qui est rompu et qui peut peut-être expliquer pourquoi en fait ils ont commencé à décimer des planètes par milliers comme ça, alors que c'était eux qui étaient à l'origine de ces civilisations. Et effectivement, la direction en fait que va prendre la coalition des planètes dans les prochains épisodes. Voilà. C'est quand même un peu pauvre hein, comme épisode.
Ça
Bon.
reste un bail pour moi.
Un bail pour toi, Bruno.
Et on
Sam,
check it.
check it. Bon, on va continuer sur du Avengers avec la sortie du 12e épisode de Uncanny Avengers, un des autres titres que j'aurais aimé lire cette semaine, mais je n'ai pas eu le temps. Mais Mister Honey Bunny l'a fait pour moi. Et il va me dire si c'était bien ou pas.
Oui, un titre qui n'a rien à voir du coup avec Infinity. Rick Remender est au scénario, Salvador Larroca est au dessin. D'ailleurs, j'ai été surpris de le voir crédité. Je savais même pas qu'il allait bosser sur ce
Si,
titre.
si, c'était annoncé.
Et ben voilà. Eh bien, j'ai écouté les Weekly News avec attention.
Je sais même pas si on en avait parlé, parce que moi je
Non,
savais
non,
bien que
mais vous
ça.
pouvez aller voir mon guide de lecture VO, c'était annoncé de longue date.
Ah,
Oui,
c'est pour
oui.
ça! Non, je plaisante.
Parce que tu écris des articles, Sam. Ouais, de
Retrouver
manière
les articles.
occasionnelle.
Je savais
Oui.
pas que t'écrivais sur le site. L'enculé.
Se paiera à la récré, ça.
Non, mais alors c'est du Larroca entre son ancien style et son nouveau style. Je sais pas si c'est très clair ce que
Oui,
je
mais je
raconte,
pense qu'il
mais
a dû speeder en fait pour
ouais,
cet épisode parce
ouais,
qu'il dessine en même temps qu'Able et X-Force donc
ouais, ouais, ouais.
c'est vraiment pour aider les
C'est vrai
copains
que ça,
quoi.
ouais, c'est vrai que ça ressemble effectivement, oui, bah à ce qu'il fait sur Cable X-Force, mais en plus rushé. Alors clairement un épisode de transition, mais bah voilà, donc Cap et son équipe sont notamment confrontés à Banshee. Et puis on assiste surtout à. Alors les scènes les plus intéressantes, c'est les scènes qui nous montrent un
Attends,
peu plus de choses. Ouais.
juste un truc, tu as dit Cable et son équipe?
Cap.
Ouais, enfin ils sont trois.
Cap.
Ils
Ah,
sont trois.
Cap! J'avais compris
Cap,
câble.
cap.
C'est pour ça que je me permettais de te couper parce que je comprenais plus rien là du coup sur le moment.
Ah,
D'accord, autant pour
j'ai
moi.
peut-être dit ça alors, parce que je pensais à.
Oh non, mais c'est possible que c'est moi qui ai mal entendu.
Je ne sais pas.
Enfin bon, l'information
Dissertons.
est sauve, c'est Cap.
Voilà. Donc les parties les plus intéressantes pour moi, c'est justement quand il nous montre des choses sur les fils d'Apocalypse, enfin les
Les
enfants
enfants.
d'Apocalypse plutôt.
Dis
Et
les
puis
jumeaux Apocalypse, c'est bien.
voilà, les jumeaux d'Apocalypse. Ou bien alors sur Kang, enfin pour moi c'est vraiment le côté qui fait avancer un petit peu l'intrigue. Plutôt que. Mais au fait, l'essentiel de l'épisode tourne encore une fois autour de Scarlet Witch. Et au fait, c'est ça le gros problème que j'ai actuellement avec tout ce que fait Rick Remender. C'est que j'ai l'impression, depuis qu'on a réintroduit Scarlet Witch dans l'univers Marvel, c'est un petit peu la bombe que tous les super-vilains essayent de
De faire
posséder.
exploser.
Et alors. Voilà, et il y a une scène très drôle, c'est que Scarlet Witch est en train de dire, grosso modo, à Simon, Wonder Man, oui, j'ai été manipulé par Doom, donc j'aimerais que tu m'aides à pas être manipulé par Red Skull, et en même temps, pour pas être manipulé par Red Skull, il faut que je sois manipulé par les jumeaux d'Apocalypse. En gros, c'est ça là, donc le truc quoi. C'est la meuf, quoi qu'elle fasse, elle est forcément manipulée par quelqu'un. Et j'en ai marre des intrigues qui se contentent de prendre la Scarlet Witch comme comme grosse bombe à retardement. C'est un peu facile quoi, puisque finalement l'univers Marvel ça se résume à ça, alors qu'il y a plein de choses intéressantes à raconter autour de d'Apocalypse, de Kang, de toutes ces intrigues là quoi à côté. Donc je trouve ça dommage.
Non, moi ça m'a pas posé problème, puisqu'en fait on comprend bien que l'arc de Reminder sur Scarlet Witch, c'est sa rédemption. Il le met en place depuis le premier épisode. Il continue là en la mettant devant un choix, en fait, soit la cohabitation humain-mutant qui est condamnée, très clairement, puisque les jumeaux Apocalypse lui ont montré l'avenir et c'est l'enfer. Voilà. Soit le choix des jumeaux Apocalypse qui est, on peut le révéler, puisque ça a été dit dans le dernier épisode, qui est grosso modo mettre en place l'événement le The Rapture, donc qui est une référence biblique où les vrais chrétiens, vous savez, sont emmenés au
Dans l'arche.
paradis. Voilà, non, c'est au paradis au
Ah,
moment
d'accord.
où l'apocalypse arrive et effectivement le démon revient sur Terre et c'est le combat final entre le bien et le mal. Là, le plan, c'est tout simplement d'enlever tous les mutants de la planète Terre et de les implanter sur un des satellites de Jupiter que Scarlet Witch, grâce à son pouvoir, pourrait terraformer.
Ouais, mais
C'était pas le plan de Cyclope déjà avec Utopia, ça?
Oui, mais là c'était sur un caillou. Là c'est une planète entière
Je
dévouée
sais,
aux mutants.
c'était juste pour la vanne.
mais je
Voilà.
crois que ce plan-là avait été largement expliqué dans l'épisode
Ouais,
l'avant
au
dernier, quoi.
précédent, voilà. Voilà, c'est
Mais
donc.
non, mais moi, enfin, ce qui me saoule, c'est que la rédemption de Scarlet Witch, je veux bien, mais ça fait un peu longtemps maintenant que elle a commis son crime et que il y a eu tellement d'histoires où c'était autour de la rédemption de Scarlet Witch que faudrait peut-être passer à autre chose, quoi, chez Marvel.
Bah pas
Je veux
vraiment,
dire,
parce
on
qu'elle a
parle
été
d'...
absente après House of M, elle a quand même été absente pendant des années.
Oui, mais
Il
ça
a
date
eu
quand même de
son retour
2005.
dans l'arc de Young Avengers qui était à chier.
Children of
Voilà.
Crusade, non, c'était bien.
Non, c'était à
Non,
chier.
c'était très bien. C'était très très bien, c'était... Moi j'ai préféré Children of Crusade que ça, hein, pour le moment.
Non, parce qu'il y a quand même des parties intéressantes, comme tu l'as dit, sur les jumeaux Apocalypse et la manière dont ils se vengent de Kang. Et on comprend au vu des premières pages, pourquoi ils veulent se venger. Parce que quand même, Kang leur a fait une vie, mais c'était l'enfer, quoi.
Oui, mais ça c'est très intéressant, mais malheureusement c'est juste 5-6 pages dans le comics, alors que le reste c'est vraiment du très
Voilà.
convenu, toujours un
Mais
peu pareil,
c'est
quoi.
un épisode de transition pour moi qui fait le point sur les différentes intrigues, qui apporte un éclairage sur certains points, mais qui, voilà, fait pas avancer les choses de manière tonitruante.
Donc vos notes.
Je t'en prie,
Petit
Tristan,
bail.
bonne nuit. Un bon check-it.
On va continuer sur le crossover Battle of the Atom avec la sortie du Wolverine and the X-Men numéro 36. Sam, tu vas nous résumer tout ça.
Oui, et bon Dieu, quelle déception que cet épisode.
Oh!
Si,
Mais c'est un
grande.
crossover de merde, je vous le dis chaque semaine.
Grande déception, parce que je vais être très honnête, bien que les crédits attribuent cet épisode à Jason Aaron, j'ai trouvé ça tellement mauvais que je me suis dit que c'est pas possible, c'est écrit par Bendis. C'est à ce point-là. C'est dessiné
Justement.
par Giuseppe Camuncoli, avec des finitions de Andrew Curry, qui normalement est encreur, donc ça fait un peu bizarre.
Elle a fait du plâtre, là.
Voilà, c'est-à-dire qu'on retrouve pour moi tous les trucs que je n'aime pas chez Bendis. On commence par une double page. Alors déjà, ça commençait mal, parce que les doubles pages chez Bendis, là, ces derniers temps, il nous en fout partout sur les moitiés, voire les trois quarts des épisodes, et ça me gonfle. Alors ensuite, on a la confrontation entre la Jean du futur et la Jean du passé, les
Coucouse.
jumelles, voilà, les Cuckoos et Emma Frost. Donc celle qui était annoncée par par Uncanny X-Men 12. Et là, on a la contradiction la plus énorme que j'ai vue dans un comic ces derniers temps, depuis le All New X-Men de Bendis.
Attention.
Puisque la confrontation, donc on se dit, la Jean du futur est tellement puissante qu'elle a besoin d'un casque pour contenir ses pouvoirs, donc elle va les écraser en 2 minutes. Ce qu'elle arrive très bien à faire avec les Cuckoos et Emma Frost sans problème. Par contre, quand elle commence à combattre sa jeune, elle-même jeune, alors là, elle a des problèmes. Alors là, tu te dis, c'est pas possible puisque Jean a ses pouvoirs télépathiques depuis 3 minutes 30. Mais elle arrive quand même à lui botter les ovaires. Si, si, je vous assure, c'est vrai, c'est pas possible, mais c'est vrai.
Le pouvoir de la jeunesse.
Voilà,
oui,
mon
tu peux
cul,
pas,
oui.
Tu peux pas interagir sur ton propre passé, mais tu peux agir sur ton futur. C'est ça la belle métaphore de Brian Michael Bendis.
Oui, mais c'est mon cul qui fait qu'il lui parle.
Non, mais là vous exagérez, parce qu'en plus, d'ailleurs, il le parle de ça, et il dit que c'est un plan complètement bidon, que
Il le
les
parle
personnes
de
du
ça.
futur. Bah, dans le
Voilà.
Aaron, en fait, dans les dialogues, en
Mais
fait,
ça fait des
entre les
épisodes
personnages.
entiers qu'ils le disent. Voilà. Moi, je m'attendais au
Mais.
twist énorme qu'on nous annonçait pour cet épisode qui allait relancer l'intrigue. Alors, on a une dernière page, effectivement, qui nous annonce quelque chose, mais ça ne fait que ça, ça ne fait que nous annoncer. Par
J'ai
ça,
l'impression d'entendre ça chaque semaine. Oh là là, le prochain épisode risque d'être énorme vu le cliffhanger. Et en
voilà,
fait, à
mais
chaque fois, chaque semaine, j'entends, oh, déception.
moi, mon sentiment sur ce crossover, c'est que normalement, ça aurait dû se faire en 5 parties. Que Marvel, voyant le potentiel du machin et ayant besoin d'un crossover pour relancer un peu la franchise X-Men pendant quelques mois, alors pendant parce qu'il y a Infinity en même temps, a décidé d'allonger ça sur 10 parties. Et putain, qu'est-ce que c'est long.
Non, je suis pas d'accord.
Bruno, ouais, du coup,
Moi,
t'as pas le même avis?
j'ai bien aimé ce numéro. Pour l'instant, le crossover, je trouve qu'il est vraiment bon, à part le
Oh là
numéro de
là.
Brian Wood que j'avais trouvé vraiment très très mauvais.
Oh non, moi j'ai adoré. Bruno,
Bah voilà,
mon
bah
Dieu.
pour l'instant, on n'est pas d'accord, mais moi j'ai bien aimé la confrontation justement entre Jean et Xorn. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. Tout ce qui se passait autour, l'intervention de Magic, les dialogues entre les personnages, les cyclopes qui parlent, tout ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et moi, j'ai trouvé que ça relance vraiment bien. On voit bien que c'est la mi-parcours. On nous lance un putain de cliff à la fin qui nous met
Ouais,
qui
bof.
remet tout en perspective, qui
Oh
remet tout en
putain.
perspective. Et du coup, j'ai vraiment envie de voir la suite. C'est vraiment le crossover blockbuster où tu te prends pas la tête, tu t'en prends plein les yeux. Et moi, j'ai trouvé ça cool. Et
Ah bah
bon, moi,
manifestement,
c'est
les
un bail.
scénaristes aussi ont oublié de se prendre la tête, hein.
Moi, je me suis spoilé la fin. J'ai envie de dire Forever
Ah
Non, c'est pas la même chose.
bah, quand on n'a
Non,
plus
pas du
d'idées,
tout.
on va
Pas du
chercher chez
tout.
la concurrence.
Pas du tout, pas du tout.
Voilà, donc pour moi
Pas du tout. Je trouve.
c'est un check it moins, parce que franchement Jason Aaron peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il l'a prouvé ces derniers mois sur la saga du Hellfire, qui était l'un de ses meilleurs boulots sur Wolverine sur X-Men depuis son lancement. Et là je le retrouve voilà, plombé, j'ai l'impression qu'il se fait chier. Voilà, très clairement.
Mais il a aussi une direction éditoriale qui peut-être ne
Voilà.
l'arrange pas.
Et je pense aussi que Bendis a pris le dessus sur ce crossover et ça se voit, mais de manière tonitruante.
Mais tant mieux, parce que c'était lui quand même qui avait ce pitch à l'idée, quoi. Donc,
Non,
c'est pour ça
c'était
que moi
Jason
j'ai pas
Aaron
aimé
qui
la
avait ce
partie
pitch à
Brian
l'idée.
Wood qui était pas du tout écrit comme du Bendis, et du coup ça faisait bizarre.
Non,
Donc
c'est
j'aimais pas.
Jason Aaron qui avait pitché l'idée à la base.
L'idée
De Battle of the
des
Atom.
D'accord. Oh, tiens, ça
Eh
m'étonne.
bien, il aurait mieux fait de
Enfin
se casser une patte ce jour-là, tiens.
bon. Donc pour moi, un bail.
Check
Et
it
donc
moi.
Sam, tu l'as dit, check it moi. On va continuer avec justement du Brian Michael Bendis, du vrai, que j'aurais préféré ne pas lire. Guardians of the Galaxy numéro 6, avec Neil Gaiman en co-scénariste, enfin en consultant, il est crédité en tant que consultant,
Oui.
et des dessins de Sarah Pichelli et Olivier Coipel,
Ah
qui
bon?
se partagent donc, eh oui, qui se partagent les
C'est peut-être pour
pages.
ça qu'il y avait des pages différentes. Je trouvais qu'il y avait un style différent sur certaines pages, mais il s'est tellement fondu dans le style de Pikeli que
Mais
j'ai pas vu trop vu la différence.
toute la discussion entre Star-Lord et Thanos
Ouais.
sont des pages d'Olivier Coipel.
C'est là que
Et le
j'avais trouvé
reste,
qu'il y avait des
c'est du
différences de
Sarah
style.
Pichelli. Le reste, c'est du Sarah Pichelli. Bon, eh bien, alors d'un côté, on a cette discussion avec Thanos, entre Star-Lord et Thanos, qui donc Bendis est en train de dire à Marvel, vous avez donné un event à Jonathan Hickman, donc j'en ai rien à foutre et je
Donc
ne
je chie
l'accepte
dessus.
pas. Je ne l'accepte pas, voilà. Et de l'autre côté, on a un énorme combat contre Angela avec « Oh mon Dieu, elle ne devrait pas être là, mais qui sait? Oh, j'ai l'impression d'avoir déjà vu », dit Tony Stark. Et donc Bendis qui continue de faire semblant d'essayer de nous donner des explications, qu'il ne donnera jamais parce qu'en fait, il ne sait pas où il va, clairement. Un épisode où il ne se passe
Rien.
strictement rien. Rien.
Ouais. Non, moi je dirais que il se passe rien effectivement, donc c'est pas intéressant du tout. Par contre, ce qui m'a fait marrer, moi, c'est le Thanos écrit par Bendis, parce que il dit quand même, donc il se lance dans toute une dans tout un dialogue sur
Monologue.
oui, un monologue sur au fait le cancer. Et au fait, il explique que la vie est un cancer, etc. Et puis il te parle de la mort. Mais sauf que Bendis écrit Thanos comme un con. C'est-à-dire que d'accord, j'ai envie de lui dire la vie est un cancer, mais sans la vie. il y a pas de cancer et il y a pas de mort. Donc tout ce que tu dis c'est de la merde, Thanos.
Ouais,
donc
et puis t'as envie Thanos, alors suicide-toi si t'as, si la vie est un cancer.
Franchement, dire de que la vie est un cancer d'un mec, enfin de la bouche d'un mec qui revient du Cancerverse, je suis désolé. C'est pas logique.
Ouais, oui, d'accord, oui, j'avais
mais oui,
pas
c'est
pensé
c'est
à ça.
Pas logique, quoi.
Quoi qu'il en soit, enfin voilà. Bon, après, que ça soit par accord, je pense que tout simplement, enfin moi je l'ai compris comme ça, ça se passe juste avant qu'il parte sur Terre. Puisque
oui,
là, il annonce
aussi.
Au fait.
Oui,
il
bah, va... bien sûr, ça se passe avant, mais oui. Mais... Puis
bah,
au
bah,
départ, ça se passait après les événements qui étaient dits actuellement, et puis maintenant, ça se passe avant.
Là, en tout cas, c'est ce qu'il annonce. En gros, ce que je comprends là, c'est qu'il va aller sur Terre faire ce qu'il fait dans Infinity. Parce que justement, il estime que c'est le foutoir, quoi.
Oui, mais de toute façon, la raison qu'il invoque est complètement en contradiction avec les événements d'Infinity. Donc c'est ça qui est débile.
Ouais. Bon, enfin bon, de toute façon, effectivement.
Je veux dire, si les événements d'Infinity étaient raccord avec ça, il y aurait une explication au fait qu'il aille conquérir la Terre. Là, il va conquérir la Terre dans Infinity parce que les Avengers en sont partis. C'est ça sa raison. Il se dit, bah voilà, c'est le moment, allons-y.
Non, mais c'est là, c'est juste Bendis qui continue son histoire à lui avec Thanos. Point.
Et voilà, là, Thanos dit clairement, oh bah tiens, je vais aller dégommer la Terre parce qu'on l'a mise en quarantaine. Non, c'est pas ça du tout. Je dis, franchement, je pense que le mec n'a pas accepté qu'on lui enlève le gros crossover du moment, quoi.
Ouais, il fait son truc. Mais c'est pareil, pour Angela, comme tu dis, Neil Gaiman, il doit vraiment se faire chier parce que, qu'est-ce qu'il est consultant? Consultant de quoi, entre guillemets? Puisque Angela pourrait s'appeler Robert... Ça changerait rien.
Mais c'est parce que, je pense que c'est parce que c'est son personnage, on l'a mis en consultant et le mec touche un petit chèque et puis voilà.
Oui, d'accord. Mais concrètement,
à mon avis, je suis certain qu'il a pas participé à ça.
Concrètement, oui, bah voilà, il y a pas de, ils en font rien.
Mais non, Neil Gaiman elle se bat, ça fait deux épisodes qu'elle est là, ça fait deux épisodes qu'elle se bat. Elle ne fait que se battre en fait. Contre les Guardians. Voilà, deux épisodes à se battre contre les Guardians. Merci.
Tout ce qu'il dit, c'est, c'est pas normal qu'elle soit, c'est pas normal qu'elle soit là. Mais oui, bordel, c'est pas normal, alors expliquez-nous.
Oui, non, puis, je dis, il y a tellement. C'est du Bendis tout craché. Bendis nous avait déjà prouvé avec son premier arc d'Avengers Assemble qu'il ne savait pas écrire Thanos. Il le confirme. Il nous prouve par A plus B que monsieur veut continuer son histoire d'Age of Ultron qui était une purge et il décide de continuer là-dessus. Et Angela, bah, il va faire comme il a fait avec le retour de Thanos et Star-Lord, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'explication, mais vous pouvez attendre, vous en aurez jamais. Et donc, on n'aura jamais d'explication sur l'arrivée d'Angela, c'est tout. Enfin, là, à mon avis, c'est clair que c'est dans ce but-là. Et que, clairement, on se fout de notre gueule. Mais ouvertement, en plus.
C'est con, hein, parce que j'avais bien aimé le démarrage de cette série. Qui était si longtemps, en plus.
Ouais, mais là, ça fait. Bah, déjà, il y a eu un mois de retard. Et là, ça fait deux épisodes que, franchement, on se fait chier. Donc, ça fait trois mois qu'on se fait chier.
Depuis le retour d'Angela. Franchement,
bon, bah,
depuis la fin des Joe Fultron. Voilà.
Bien, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette daube.
Ben ouais, Bendis n'a su faire qu'un arc pour le moment. on verra la suite, mais bon. Je commence à vraiment désespérer, donc là pour moi c'est un gros pass, cet épisode.
Idem, pass.
Bah, j'ai envie de dire reste les dessins.
Oui,
quand même.
Les dessins très dits, c'est très...
Quand même, donc c'est vraiment...
Encore, je trouve que Sarah Pichelli était moyenne sur cette...
Bah elle était malade.
Oui, oui.
Merci
mangé,
sur les Comic-Con.
Ouais.
Elle a mangé un kebab qui n'est pas passé. Mais attends, après, je vais me faire attaquer par tout la communauté du kebab, très puissante. non, mais enfin, voilà, donc... reste quand même les dessins. Enfin, je dirais vraiment le plus petit check-it possible, quoi, à la limite du pass.
Check-it moins.
Donc le check-it moins, voilà.
Oui, voilà.
On continue avec l'univers galactique. Nova numéro 8 qui entre dans la partie Infinity, Bunny.
Oui, alors Nova 8 par Zeb Wells. Et au dessin, c'est Paco Medina. On va commencer par le plus simple, les dessins. Moi, j'adore toujours, en fait, le style de Medina. Je trouve que... Pardon ?
Oui, vas-y, continue.
Oui, il prend bien la suite d'Ed McGuinness.
Ouais, ça c'est sûr.
Bah oui, il fait une copie, donc c'est sûr que ça marche.
Après, alors.
C'est sûr. À part le fait de rajeunir les personnages, tout va bien, quoi.
Voilà.
Je suis désolé, Speedball, il a 14 ans.
Oui.
Le mois dernier, il en avait 16, maintenant il en a 14. Je m'attends à ce que dans deux mois, il ait 8 ans, quoi.
Oui, non, mais je savais que t'allais gueuler sur Speedball. Mais. Après, c'est le style aussi du dessinateur. Ed McGuinness aussi a tendance à rajeunir certains persos et. C'est comme ça. En même temps, Speedball, À un moment, il avait un look de vraiment badass avec le rôle de Pinance. Bon, je sais pas quel âge il est censé avoir. C'est vrai que là, il fait, à mon avis, plus jeune que ce qu'il devrait faire. Mais bon.
Je pense que Speedball doit avoir dans les 20, 22 ans, quelque chose comme ça. Mais là, franchement, il en a 14 à tout péter sur les pages. Je veux dire, qu'il le rajeunisse un peu, d'accord. Mais un peu, quoi. Faut pas lui enlever la moitié de sa vie non plus, quoi.
Alors là concrètement, c'est Sam Alexander qui découvre que l'identité secrète, faut quand même essayer un minimum de la garder secrète, quoi. Enfin, voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça m'a fait un peu marrer ce démarrage. On voit Caldera, hein, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Alors comme je suis pas Infinity, moi je sais pas du tout exactement quel est son
rôle.
C'est
une apparition.
Comment ça, c'est une apparition?
Cette fameuse Caldera, c'est sa première apparition.
C'est sa première apparition d'ailleurs.
Bah oui, c'est dit dans les pages du comic. C'est un des soldats de Proxima Midnight.
D'accord, ok. Oui, bah alors c'est Proxima Midnight. Je sais même pas quel est son rôle exactement. Enfin bon, bref.
Ça me dit,
on est en train de détruire la Terre en ce moment.
D'accord, voilà. Donc il y a ce personnage qui arrive sur Terre, et il y a surtout la rencontre entre donc Nova et Speedball, qui
et Justice.
Voilà, oui, c'est vrai qu'il est en Young Justice.
Non, c'est Justice, l'autre personnage.
C'est Justice, d'accord.
Mais oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est franchement ridicule.
Oui, oui, d'accord. Oui, bah oui, c'est clair qu'ils font tous les deux bien plus jeunes que leur âge, quoi. Et donc, qui essaye de récupérer, d'aller à la rencontre et de faire connaissance avec le nouveau Nova. Et d'ailleurs, il parle de l'ancien par la même occasion. Donc, bon, enfin, globalement, moi, j'ai trouvé l'épisode plutôt sympa. J'ai passé un bon moment comme d'habitude. J'ai rien de plus à en dire. Je me suis pas fait chier comme avec Guardian of the Galaxy. J'attends de voir. Parce que le problème c'est que c'est tie-in à Infinity, donc voilà. Est-ce que Zeb Wells peut faire ce qu'il veut? Je suis pas certain.
De toute façon, Zeb Wells, on sait qu'il ne restera pas longtemps puisqu'il s'arrête au numéro 10, hein, donc il fait ce qu'on lui demande.
Ah, c'est qui après, du coup?
Ce sera Gary Dugan qui prendra la suite.
Ah, putain, d'accord.
Un épisode où il se passe rien. Encore un épisode où il ne se passe strictement rien. C'était faisable en backup, c'est-à-dire en 8 pages. C'est délayé.
On a déjà vu ça, enfin, c'est pas
oui,
plus
mais...
délayé.
Voilà, les deux séries galactiques qui démarraient très bien commencent sacrément à me faire chier toutes les deux. Donc, je vais être plus gentil que Guardians of the Galaxy parce que celui-ci, je vais lui mettre un check-it. Parce que là, franchement, on a tout dit. Hein. On vous a résumé le comic dans son entier.
Tu veux dire Nova ?
J'ai dit quoi ?
T'as dit Guardians.
Oui.
Je
vais être plus
sympa.
Gentil pour Nova en me mettant un check-it alors que Guardians of the Galaxy, j'ai mis un pass. Mais c'est parce que... Pour le moment, je préfère encore un tout petit peu Nova, mais à ce rythme-là, j'arrête Guardians et j'arrête Nova dans 2 mois, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de s'enfoncer autant après de si bons démarrages. Voilà. Donc ta note, Benny ?
Moi, ce sera un petit bail, hein, parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien, franchement, voilà. Mais bon, petit bail, parce qu'effectivement, il se passe pas grand-chose. Comme tu dis, c'est assez lent, quoi.
Oh bah, on retourne à la situation de départ, la situation de la première page est réatteinte à la 18e. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde, quoi. Ça se veut être un effet comique, mais non, c'est juste ridicule. Surtout que ça fait 2 épisodes que cette situation dure.
Mais
tu vois de quelle situation je parle, je pense.
Je sais même pas si j'ai lu l'épisode 7, au fait.
Bah, la reconstruction du skatepark, quoi. Voilà.
Ah, non, bah, je l'ai pas lu alors. Je l'ai pas lu, le numéro 7.
On va terminer notre partie Marvel avec une mini qui s'appelle The Trial of the Punisher, Bruno.
Oui, et j'ai pensé à toi, Steve, en lisant ce comics, qui est écrit par Mark Guggenheim et qui est dessiné par Lenny Francis Yu, qui s'ancre lui-même, pour le coup. Donc là,
que je voulais lire aussi, que je n'ai pas eu le temps.
Voilà, donc c'est en fait une petite micro-série, puisque c'est en 2 numéros. Revient en fait, c'est une idée de Mark Guggenheim qui est un fan du Punisher et
qui
en fait regrettait qu'on ait jamais vu le Punisher dans un tribunal en fait, et qu'il soit soumis face à un jugement par rapport à un de ses crimes. On l'a vu en prison, on l'a vu se faire arrêter parce qu'il avait un plan pour pouvoir rentrer dans des prisons et trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment du procédural, quoi. Donc c'est vraiment pour Steve. Ça commence avec le Punisher dès la deuxième page qui arrive dans un commissariat et qui dit qu'il aimerait bien donner des informations sur un crime, sur la mort en fait d'un procureur. Et le gars, il lui dit oui, bah faut appeler. Le truc des témoins, vous pouvez donner votre info à ce moment-là. Et puis là, le Punisher, il ouvre son sac et en fait, il laisse le cadavre du procureur au pied du flic et il dit oui, j'aimerais dire que c'est moi qui l'ai tué. Donc il se fait arrêter et après en fait, c'est du tribunal. On a un avocat qui lui est donné. Donc il y a des questions qui sont mises en avant sur la sanité ou non du Punisher. Est-ce qu'il peut être jugé pour un crime au premier degré et condamné à mort pour ça, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est fou? Donc c'est relativement intéressant. Et derrière tout ça, en plus, on se dit le Punisher, il a un plan. Il a pas tué ce procureur juste comme ça pour rien, quoi. Et c'est là le petit point négatif du comic, c'est que au bout d'un numéro, on a l'impression d'avoir à peine effleuré le début de l'histoire. Et se dire que ça va se terminer dans le prochain, ça me fait un petit peu peur. Donc bon. J'attendrai de voir le deuxième pour vraiment me prononcer, mais pour l'instant ça reste un check-it. Et puis au niveau du dessin, c'est du très bon Lanil Francis Yu qui dessine un très beau Punisher. Donc voilà, moi c'est assez curieux, c'est curieux ce titre.
Une mini que de toute façon j'irai voir, j'avais prévu d'aller le lire. Notamment parce que Mark Guggenheim, on le rappelle, c'était quand même au départ un avocat et qu'il a aussi énormément travaillé sur Law and Order. Donc le procédural, il connaît ça.
Tu vois, je savais pas, je le connaissais pour ses comics, mais pas pour sa carrière.
Pour sa carrière télé, il a aussi été superviseur sur CSI Miami, sur Injustice. Il avait participé à An Ordinary Family. Bon, rappelons que dans Les Mauvaises Choses, il a quand même écrit le scénario de Green Lantern.
C'est pas terrible. Il a écrit Alcyon, qui est très bien, dont Sam nous avait parlé et que j'ai lu et qui est très bien aussi.
Voilà, donc et puis on va en profiter pour lui souhaiter un joyeux anniversaire puisque c'était en début de semaine.
Joyeux anniversaire, Marc.
Voilà. Donc et tu lui mets qu'un check-it ?
Je lui mets un gros check-it parce que j'ai peur.
Un petit bail d'anniversaire ?
Bon, allez, un petit bail d'anniversaire. Allez, t'as raison.
Tu es influençable.
Je suis influençable, mais bon, voilà, un petit bail d'anniversaire.
Très bien. On va continuer, on va terminer, avec les TP comme chaque semaine. On va faire très vite avec chez DC sort Amé Comic Girls, le premier TP du Justin Gray et du Amanda Conner au prix de $15. C'est Rick qui s'est arrêté
pour les filles.
Aujourd'hui. On le sait, maintenant ça s'est arrêté, qui reprend les 5 premiers épisodes de cette série qui avait commencé en digital, je crois.
C'est très mignon. Voilà.
Continuons avec la ressortie du TPB de Preacher, le volume 2, qui reprendra les épisodes 23 à 26 pour $20. Donc, 13 à 26, j'allais inverser les chiffres en fait.
Très, très bonne édition, pas cher.
Très bonne édition, pas cher du tout, hein, $20 pour autant d'épisodes. C'est vraiment à ne pas rater si vous n'avez jamais découvert Preacher ou si vous avez une vieille édition.
C'est mon cas. Surtout pour une série comme ça, ouais. C'est vraiment ultime Preacher, l'une des meilleures lectures de ma vie.
Sam ?
Je sais pas, j'ai jamais dépassé le volume 1.
Oh, tu n'as pas d'âme.
Je trouve que c'est un peu daté, c'est pour ça.
Oh, comme tu n'as pas d'âme.
Oh.
Si, mon âme est toujours là. Et...
Oh, t'es méchant.
Prêt à bâcher.
Toujours chez DC, nous avons aussi la sortie en hardcover du Shazam. Qui reprend tous les backups ainsi que le numéro spécial qui concluait cette histoire.
Qui est de la merde.
Qu'on avait pu voir dans les Justice League. Qui est de la merde, c'est ça que tu as dit ?
Ouais, je déteste cette version de Shazam.
Non, c'est très sympa.
C'est au prix de $25 si vous n'avez pas envie de retrouver les Justice League, si vous n'achetez pas les VF, mais que vous voulez lire que le Shazam de Jeff Jones et Gary Frank.
Très bonne idée, et ce sera un plaisir de le découvrir comme ça plutôt qu'en backup.
Oh que oui, parce que c'était quand même sacrément lent en backup. Passons maintenant à Image avec Cyberforce Rebirth, le premier TPB qui reprend les 5 premiers épisodes de ce renouveau de Cyberforce par Mark Silvestri et Coy Pham, et ça sort au prix très attractif de $10 puisque c'est un TPB Image.
Miam miam, non je déconne.
Bah à $10 franchement, à savoir que c'était une série gratuite au départ. Mais...
Oui, ça regroupe les épisodes qui étaient gratuits, mais voilà.
Parce que c'était
à partir du numéro 6, c'est payant.
Comment on te la met bien profond.
Oui, mais bon, là vous avez une édition collectée, avec quelques petits bonus, donc.
Ouais.
Sortie d'un projet Robert Kirkman aussi cette semaine, Walking Dead Undead Project TPB. C'est le projet 100 en fait, hein, vous savez, c'est 100 covers que l'on fait pour la Hero Initiative et tous les bénéfices iront justement à cette Hero Initiative.
Ah, alors je retire donc, ce que j'ai dit.
Oh, c'est bien pour ça que je l'ai mis hein, cette fois-ci, sinon j'en aurais pas parlé.
Comment il est méchant. Oh, il se moque des bonnes causes. Oh, c'est vraiment, mais quel salaud ce Bruno.
Oh, je suis horrible, j'ai un cœur de pierre.
Vous retrouverez donc des nouvelles versions des covers de Walking Dead, avec notamment bien sûr du Charlie Adlard, mais aussi du Paolo Rivera, du Ryan Otley, du Raphaël Albuquerque et plein d'autres. Et ça vous fera soutenir aussi une bonne cause. Il y a tout peut-être moyen de déduire des impôts en plus, je sais pas. Il y a peut-être moyen de s'arranger.
Ça va être un peu compliqué hein, pour déduire les 10 balles.
Continuons avec chez Marvel maintenant la sortie d'un nouveau type de Masterworks, les Marvel Masterworks Atlas Era, qui vont reprendre tout ce qui était sorti à l'époque d'Atlas, c'est-à-dire précédent Marvel, la fin des années 50. Et on commence pour ce premier numéro, ce premier tome qui vaut $30 avec les 10 premiers épisodes de Tales to Astonish, du Stan Lee, du Jack Kirby, du Steve Ditko. Il y a tout un tas de grands talents de l'époque avec plein de petites histoires d'horreur. Ça vous laisse complètement froid.
Non, c'est bien. Voilà.
C'est vrai, c'est vachement bien que ce soit regroupé et facile d'accès. En plus, dans la collection Masterworks, qui est quand même assez
parce
luxueuse.
Que je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'on a vraiment du mal à trouver, donc c'est bien qu'ils ressortent dans ce type d'édition.
Donc là, c'est du TP, hein, ça vaut $30. Rappelons que les hardcovers des Masterworks, en général, font plutôt 50. Donc jetez-vous sur le TP si vous êtes un peu short. Continuons avec enfin, et je vais quand même dire merci à Dan Slott cette fois-ci. L'arrivée du deuxième TP de Spider-Man 2099 pour $30 avec les épisodes 11 à 14 et l'annual numéro 1, ainsi que du matériel de 2099 Unlimited 1 à 3 avec la chienne qui est en train de s'étouffer à côté. C'est horrible. $30, c'est un peu cher, mais c'est le moyen de découvrir la suite de cette série, puisque rappelons qu'il n'y avait que le premier qui était sorti, qui s'était arrêté. Il est sorti il y a de ça presque 10 ans maintenant, je crois. Pas loin. Qu'on avait pu avoir chez Panini aussi en VF.
Oui, enfin, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps aussi. Ouais.
Enfin, le deuxième arrive, et c'est pour ça que je dis merci à Dan Slott, parce que c'est le fait, je pense, de ramener de Spider-Man 2099 dans la série Superior Spider-Man qui fait qu'on a cette sortie en TP.
Mais de rien, Steve, ça me fait vachement plaisir.
Ah, oh, dis donc, Dan Slott, il a une voix toute pourrie. Hein.
Il a une voix très aiguë en plus, Dan Slott.
Ah, bah, tu vois.
Enfin, assez aiguë en tout cas. Continuons avec du très très bon qui va faire plaisir, je sais, à notre ami Bruno, hein, qui a un cœur de pierre, avec Young Marvel TPB, Little X-Men, Little Avengers, Big Trouble, qui va reprendre iBabies versus X-Babies, un Wolverine 102.5, le Pin Size X-Babies Murderama et X-Babies Reborn, donc toutes les versions X-Babies de ces dernières années pour $25.
Après, il y a juste AVX Babies que j'ai pas trop aimé. Après, le reste, je les ai pas lus et les covers de Scotty Young sont très jolis, donc voilà.
Mais c'est génial, c'est un bon projet.
Je pense que toute ta famille, tes amis savent ce qu'il faut t'acheter pour ton prochain anniversaire.
Moi, ça me fera plaisir, hein, je pourrais le revendre.
Le bâtard qui revend ses cadeaux en plus, c'est horrible, c'est horrible.
Mais quel salopard, mais quel capitaliste de merde.
On continue avec Dark Horse qui nous sort le 14e volume des Eerie Archives avec les épisodes 65 à 69. Ça vaut $50, c'est du hardcover et vous retrouverez entre autres du Alex Todd, du Bernie Rexton, du Paul Neary et plein d'autres.
Oui. Voilà, et ben, ça c'est très, très ça c'est vachement bien et on l'aura sans doute en français chez Delirium.
Du très très grand comics, bien loin des super-héros, mais du très très grand comics néanmoins. Voilà. Continuons avec un graphic novel de Cameron Stewart qui sort cette semaine, un artiste vraiment apprécié. C'est le reprint en version papier de son webcomic qui s'appelait Sin Titulo et c'est au prix de $20. Je sais pas si quelqu'un a lu ce webcomic.
Pas du tout.
C'est pour ça que je cherchais ce que tu allais pouvoir dire sur cet auteur. Donc très apprécié. Bah écoute, peut-être. Je sais pas. En fait, je connais pas
Cameron Stewart aussi. Il a quand même un style qui est franchement très reconnaissable et qu'on voit assez peu finalement. Ensuite, on passe à des livres qui ne sont pas, bien sûr, des TPB. Un livre sur le qui s'appelle Classic Era of American Comics sort cette semaine. C'est écrit par Nicky Wright et qui va revenir sur comment le comic entre les années 30 et les années 50 est devenu un médium à part entière, un médium qu'on collectionne et qui atteint aujourd'hui des sommets d'argent, finalement. Comment c'est devenu une industrie à part entière. Ça vaut $24.95. Encore un nouveau bouquin qui revient sur l'histoire du comic, si vous avez envie de tenter. Genre de produit qui peut toujours être sympathique.
Ça peut être intéressant.
Et ça fait, je n'ai plus le nombre de pages, tant pis, c'est pas grave. Continuons avec du Frank Frazetta Art and Remembrances Hardcover. Ça vaut $50. Ça sort chez Hermès Press. Et c'est un bouquin écrit par Frank Frazetta Jr. avec plein de planches, de photos, des choses qui n'avaient jamais été publiées jusqu'à présent. Et qui vont revenir sur l'ensemble de sa carrière, sur qui il était aussi, quel était l'homme derrière le dessinateur. Donc écrit par son propre fils, un joli bouquin en fait, vraiment vraiment très sympathique. Je sais pas si tu as pu le voir, Bruno.
Non, pas du tout.
En tout
mais
cas,
ça doit être très bien.
Si vous êtes fan de l'artiste et que vous voulez en savoir plus sur aussi ce qu'était sa vie, donc $50. Et enfin, là, le véritable cadeau pour Bruno,
merci,
le Lego Minifigure Year by Visual Chronicle Hardcover.
C'est quoi ce truc du coup, j'ai rien compris. Là.
C'est un gros bouquin qui va reprendre plein de figurines des Lego année par année.
Ah, ça s'appelle comment ce truc ?
Lego Minifigure Year by Year Visual Chronicle.
Pff, oh là là.
Et ça sort chez Baen Books.
Miam miam. Ça c'est un livre qui fait bon regarder à Noël.
Il est peut-être sorti, j'ai trouvé deux dates différentes, j'ai trouvé la date de cette semaine, mais j'ai aussi trouvé la date de la semaine prochaine, le 2 octobre. Donc à voir, ça vaut $40, à voir s'il est vraiment bien sorti cette semaine, je préférais le mentionner maintenant.
Voilà, tout a priori ça sortait bien le 18 septembre.
Oui, je dis la semaine, donc la semaine d'avant. C'est assez compliqué, parce que moi la release date que j'ai là c'est le 2 octobre, alors que je l'ai trouvé pour cette semaine, bref. Bon, ça
256 pages, wow, de Lego, la vache.
Ouais, avec plein de personnages Lego, le Lego à travers les âges. Ça peut être très sympa pour ceux qui sont vraiment fans de ce type de.
Ou ceux qui voudraient s'y mettre.
Ou ceux qui voudraient s'y mettre. Je pense notamment à Cable, justement, de Comics Chronicles, qui est un grand fan des Lego. Je pense que c'est un bouquin qu'il va vite acheter ou se faire offrir.
Et ils offrent trois figurines d'ailleurs dans le bouquin.
Et le connaissant, il va plutôt se le faire offrir d'ailleurs.
C'est tellement crade.
Mais sinon, Bruno, franchement, t'as pas de cœur et j'aimerais bien te voir en Lego dans l'espace et mourir.
Oh, là, je suis calmé là.
Non seulement dans l'espace et mourir, mais en plus
en Lego. Être en Lego quoi.
Et je crois que c'est la meilleure partie d'ailleurs. Voir la tête de Bruno en Lego.
Ah bon,
je suis prêt à payer monsieur Lego
exploser.
Pour qu'il le fasse.
Mais le plastique survit dans l'espace.
Le plastique, c'est fantastique.
Et le caoutchouc, super doux. C'est bien connu.
Super référence.
Donc, après ce vibrant hommage.
À Richard Gottener, peut-être. Bon, je me moque.
Mais t'es fou. Richard Gottener. Mais ça va pas ou quoi?
Il est où le petit toutou? Il est au plancher à chien?
Ça y est, c'est fait la fin. C'est d'ailleurs la fin de cette émission et c'est la fin de cette semaine de ouf de podcast. 4 podcasts cette semaine, j'en pouvais plus. Je suis bien content qu'on soit arrivé au bout.
J'applaudis.
J'entends pas très bien tes applaudissements,
dis-moi. J'applaudis, hein.
C'est mieux, merci. Complètement sur les rotules, mais heureux. Voilà.
Bah, c'est bien.
Ça laisse un vieux blanc, c'est terrible.
Je sais pas
mais
pourquoi,
écoute, si t'es majeur, je te regarde.
Oh, oui.
Tu aimes souffrir, donc.
J'aime souffrir.
D'ailleurs,
sans
on enregistre demain celui sur Whiplash. Alors, le petit spécial Whiplash.
Absolument.
Benny est hyper intéressé.
Bon, va falloir bosser en plus. Oh, merde.
Avec évidemment 45 minutes uniquement consacrées au Tony Stark ado. Des années 90.
Et à The Crossing. Ah,
bah, remarque, je pense que sa chronologie sera facile à relire parce que ça doit tenir en une douzaine d'épisodes maximum.
Bah oui, mais il faudra relire les épisodes et il y aura 10 minutes consacrées à chaque épisode.
Ah, du Terry Cavanagh.
Ah, c'était un bon auteur, hein, Terry Cavanagh, mine de rien.
C'est un grand.
Sauf là-dessus.
Ouais, sauf là-dessus.
Attends, Terry Cavanagh, c'était un bon auteur, Sam.
Oui, il a signé des bons trucs.
Dans les années 90, il était bon, quoi.
Ouais. Attends, vous êtes ouf, c'est le mec qui sortait des cyborgs de partout, des ninja cyborgs, etc.
Il, a fait il des, était il raccord a fait avec des... les années 90.
Bah oui, il a fait des sombres, des épisodes, mais de merde sur Spider-Man. Je crois que c'est les pires qu'on ait jamais eu. Même Dan Slott est largement meilleur.
Ah non, les pires, c'était Warren McKee. Faut pas déconner, non.
Ah non, non.
Ah, si.
Alors, certainement pas.
Ah. Si, si. Alors.
Fight!
Attends, Blood Rose, plus tard, hein. Blood Rose. Ah oui, mais tu les as peut-être pas lus, remarque. Les trucs avec Blood Rose, c'était une sombre purge. Et si ça tombe, c'était Warren McKee.
Ça me prend pas d'étonnant.
Je crois que c'était McKee en plus. Ah là là.
J'adore comment l'émission vient de se barrer en live.
Le Silverman, Cyborg. L'armure, le Spider Armor. Putain, c'était Cavanagh ça.
Voilà. Non, je pense pas.
Si, j'en suis même sûr. Mais par contre, Cavanagh, il a quand même le mérite d'avoir donné l'idée de la saga du clone.
Ben oui, parce que c'est lui, dans son idée, il fallait que la saga du clone dure 6 mois, maxi, et il y avait quelque chose de très, très détaillé au départ, donc c'est pas sa faute.
Moi qui croyais que c'était un humoriste canadien.
Oh putain, oh la vache.
Bah tu vois, non seulement c'est un humoriste canadien, mais tu le savais pas qu'il avait fait du Spider-Man dans les années 90.
Ouais, je savais pas.
Et bien finalement, le spécial de demain, ce ne sera pas sur Whiplash, mais sur Terry Cavanagh, je pense.
Sur Anthony Cavanagh. De son vrai nom.
Sur les deux. Sur tous les Cavanagh du show business.
Bon, on va conclure la semaine prochaine pour d'autres délires et d'autres hors-sujets, j'espère.
Oui.
Pas.
Ça marche.
J'espère pas non plus.
D'ici là, bien sûr, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Et puis, vous nous envoyez des mails à l'adresse podcast@comicity.fr, mail que nous lirons et nous répondrons aux questions dans le Weekly News, la partie Comics.com en fin d'émission. Voilà. Et amusez-vous bien avec tous les différents podcasts que vous avez eus cette semaine. Il y a l'autre spécial que l'on a enregistré mardi qui sortira la semaine prochaine. Vous aurez encore 3 émissions cette semaine. Attention, n'y prenez pas goût, hein, parce que ce sera pas comme
non,
ça.
Tu mourras temps. Avant, je pense.
À ce rythme de sommeil, oui, je pense.
C'est tellement sympa.
Sachant que là, depuis 3 semaines, j'ai dû perdre l'équivalent de 4 à 5 kilos.
Ouais. Ah, petit régime. Tu vas pouvoir écrire un bouquin.
Bah, oui, mais pas à volonté.
Petit régime façon Comic City.
Depuis le début de l'année, j'en suis à plus de 12 kilos de perdu, donc ouais, c'est pas mal. Oui, non, ça va. Je pense que j'arriverai proche du néant à la fin de l'année. J'arriverai en point négatif. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme d'habitude, portez-vous bien, lisez plein de comics.
Ouais, à bientôt. Ciao à tous. Can't you?